yourself with anyone else. So I got you the first on a list with a pain in my heart. No matter what I'll do, I try not to fall apart. I can see you with anyone else. Do you feel alive when you save yourself? It's a long way down, but I feel alive. None of this will break my bones, but the memories may hurt me down. But I will let go, it is on my mind. And in this heart there is room for you leaving if you let me back on my feet, and I'll try to move away from it all. Do you feel alive when you save yourself? It's a long way down, but I feel alive. None of this will break my bones, but the memories beyond me down.
Bonsoir à tous. Je m'applique pour pas dire bonjour parce que normalement c'est le matin qu'on stream ici, mais quand il y a question pour un champion, on essaye de streamer le soir. Que dis-je ? On réussit à streamer le soir puisque j'ai streamé lundi soir, j'ai streamé mardi soir, j'ai streamé ce mercredi soir, super tard même. Quelle heure il est ? 21h45. Nous rentrons dans une quatrième dimension. Comment ça va ? Vous, je voulais d'abord vous dire que j'étais très heureux d'être là. Voilà. C'est vraiment un plaisir, quoi. C'est-à-dire que le réveil a sonné à 5h ce matin, j'ai lu un petit peu les journaux. Ensuite, je suis allé à la question pour un champion, à la plaine, on va dire de 8h30 à 18h30, quoi. Dernière session aujourd'hui, dernière journée. Donc là, ça revient dans 3 semaines, 1 mois. Et je n'ai eu de cesse de lancer un stream ce soir, quoi. Bon, vu de l'actualité, en même temps, ça me semble juste, impératif. Et donc, sauf que j'ai pas le temps de lire le Monde notamment dans la journée quand je fais question pour un champion. Donc, j'avais lu tous les journaux que je voulais lire, mais j'avais pas lu le Monde. Or il y avait des trucs intéressants dans le Monde, donc j'ai voulu les lire. Et puis de toute façon j'ai passé un petit moment aussi avec les enfants et avec mon amoureuse juste avant. Et pour ceux qui se demandent s'il y a un stream demain matin, il y aura un stream demain matin parce qu'on est des malades ici. Et par ailleurs j'ai eu du mal à installer, à trouver mon plateau, mes invités. Max Lamala, on est là pour essayer de discuter d'actualité, discuter de l'actualité de façon chill, de façon apaisée, avec des arguments intelligents. Quel que soit, vous avez le droit d'être pro-palestinien, pro-israélien, ou vous interroger sur les responsabilités de chacun dans tout ça. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien sur toutes les actualités. Mais par contre, je vous demande qu'une chose, toutes les idées légales sont autorisées ici, à condition qu'elles soient exprimées correctement. Les agressions verbales envers les uns les autres, envers les autres viewers, envers les modérateurs, envers le streamer, ça c'est non en fait, parce que ça ne nous mène nulle part. C'est pas parce que ça me blesse, j'en ai rien à foutre que vous m'insultiez. j'ai le cuir assez épais pour ça. C'est juste qu'en fait, ça ne sert à rien, en fait. C'est comme quand un mec débarque dans ce stream et dit « Vive Eric Zemmour !» T'as le droit de penser « Vive Eric Zemmour !» C'est juste inintéressant, ça ne sert à rien, tu ne vas convaincre personne. Donc quand je commence à voir, là, alors qu'on n'a pas encore parlé du Proche-Orient, on va en parler longuement ce soir, des anathèmes, des trucs, trois mots pour dire « J'ai raison, les mecs en face, c'est des gros cons » ou « Les assassins que dis-je ?» Très bien, mais et alors, tu vas convaincre qui avec ça? Donc juste, vous avez le droit à toutes les opinions que vous voulez, mais mettez des mots, mettez de l'intelligence, de la réflexion là-dessus. Ok, c'est tout. Sinon, on va vous demander en fait d'aller voir ailleurs, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est juste que c'est pas contre vous, c'est juste que c'est, on essaie d'avancer ensemble, au-delà de nos différences, de nos, vous voyez, voilà. J'en étais où? Donc oui, compliqué d'organiser une hebdo Étienne. Vendredi soir, c'est ça va, c'est dans deux soirs, donc je n'étais pas totalement à la rue, mais en général, j'anticipe quand même. Quatre invités, c'est moi qui m'occupe de la programmation, c'est important pour moi. Quatre invités, c'est du travail, voilà, dont je m'occupe. En général, j'essaie de prendre un petit peu d'avance. Et puis là, ça a été compliqué, notamment, c'est, moi j'aime bien mélanger mes univers et mélanger les journalistes, c'est un petit peu mon, comment dire... l'univers dont je viens, et les créateurs de contenu, et les streamers, et les youtubeurs notamment. Voilà. Donc j'aime bien ça. Sauf que j'ai pris conscience que, autant pour un journaliste de se pencher sur l'actualité au Proche-Orient, c'est comme d'hab, je veux dire, c'est sa fonction, c'est son job en fait de se pencher sur l'actualité, d'essayer de comprendre, d'analyser, de décortiquer. Bon, on le fait tous les jours, quoi. Ah oui, Yann, putain, j'ai oublié d'enlever le truc du sponsor du dimanche. Ah, c'est pas grave. Ce stream n'est pas sponsorisé, je m'en fous. Il vaut mieux, vaut mieux dire que ton stream est sponsorisé alors qu'il ne l'est pas, plutôt que d'oublier, quoi. Mais c'est vrai que j'ai oublié de l'enlever. Et donc, en fait, j'ai pris conscience ces derniers jours que, autant pour un journaliste, c'était facile, en fait, normal, classique, de venir parler de toute l'actualité, notamment de l'actualité qui crée tant de tensions, pas seulement ici, mais partout, dans la société française, qui est la situation au Proche-Orient. En revanche, pour un créateur de contenu, pour un streamer, pour un youtubeur, venir parler du Proche-Orient, alors qu'il n'est pas journaliste, quelque part à un moment se voit interpellé, notamment par les viewers, en mode mais dis-nous ce que tu penses, hein. Alors, qui a raison, hein? Les Israéliens, les Palestiniens, voilà. Condamne, dénonce, voilà. Et ce que me disent ces streamers, ces youtubeurs, c'est que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi. De prendre position, de braquer une partie de leur communauté. Je ne sais que penser de ça, d'ailleurs. Je n'ai pas trop réfléchi à cette question, mais est-ce que les créateurs de contenu, les streamers, les youtubeurs ont... Est-ce qu'ils ont l'obligation de se prononcer sur l'actualité, hein? Est-ce qu'ils ont l'obligation de se prononcer sur, la réforme du RSA, la vie politique en France, la loi sur la fin de vie dans notre pays, voilà. Je pose la question, pourquoi? Moi, je revendique... que les gens aient le droit de ne pas savoir, de ne pas avoir d'avis, de pas forcément prendre position. Voilà, quand je crée un sondage ici, je dis donnez-moi votre avis, puis je crée toujours une case je ne sais pas. Voilà. J'ai vu que certains avaient interpellé Squeezie, par exemple, en mode mais alors Squeezie, tu nous as pas dit ce que tu pensais de la crise au Proche-Orient? Je suis le seul à penser que il est pas obligé. Je sais pas, je dis une connerie. Qu'est-ce qui obligerait Squeezie à se prononcer sur ce sujet? Je sais pas. Je me pose la question. Mais non, pas du tout. Il y a Fauchevent qui dit c'est dans leur nom de métier influenceur. Attends. Le gars, Squeezie ou un autre, n'importe qui, il est passionné de jeux vidéo. Bon, à un moment, il sort un peu de son cadre et puis il crée autre chose. Il crée des rendez-vous avec des potes. Ils font des courses de voiture. Alors, il y a un moment, on les appelle influenceurs. Bon, je suis pas d'accord avec le terme. D'ailleurs, certains le revendiquent. Tu vois, on voit bien que ça marche pas, ça, influenceur, non. Alors, à partir du moment où tu as de l'influence parce que tu as une communauté, t'es influenceur. Et puis du coup, c'est le même mot que pour, tu sais, les gars à Dubaï, là. qui te vendent des écouteurs fabriqués en Chine à 1€ qui te les vendent 150. C'est pas le même métier pourtant, ils font pas la même chose. Moi je préfère créateur de contenu. Déjà créateur de contenu, il n'y a pas influenceur dedans. Voilà. Et quand on dit, quand certains disent Squeezie doit se prononcer sur le Proche-Orient, ben, c'est, avec cet argument, ben, c'est un influenceur, donc il est obligé de se prononcer. Mais en fait, non, en fait. S'il a envie, libre à lui, quoi. Voilà. Je réfléchis là-dessus en ce moment. Et je réfléchis pourquoi ? Parce que, ben, je ne vous cache pas, et je ne vais pas donner de nom, évidemment, que ben, cette semaine, ce vendredi, comme d'habitude, j'ai voulu mélanger. Hein ? J'ai invité des journalistes, comme d'habitude, et puis j'ai invité des créateurs de contenu. Des streamers, des youtubeurs, voilà. Et en fait, très vite, les créateurs de contenu m'ont dit le Proche-Orient, quoi, c'est chaud, quoi, c'est compliqué pour moi de me prononcer là-dessus, quoi, voilà. Donc beaucoup d'échanges, des gens qui dont j'en avais invité deux pour dire les choses, quoi. Les deux qui, malgré ces difficultés, ces questionnements, cette prise de risque estimée par eux de rentrer dans des sauces, de provoquer la colère de leur communauté, deux créateurs de contenu, un youtubeur, un streamer, qui m'ont dit ok, je viens quand même. Courageux. Voilà. Et au final, cet après-midi, tout à l'heure, j'ai eu un message de l'un de mes deux invités qui a dit non, je t'ai dit oui, mais ça fait deux jours que j'y pense, et en fait, non, c'est trop chaud, quoi. C'est trop chaud. Moi, je peux pas. Je peux pas, à moins que tu ne parles pas du Proche-Orient. Évidemment. Certains m'ont dit, c'est simple. Vendredi, tu fais l'hebdo Étienne, mais tu parles pas du Proche-Orient. Non, pas lâche. C'est beaucoup plus compliqué que ça, frottifroc. Pas du tout, c'est pas de lâcheté. Non. Moi, j'essaie de mettre dans la tête des gens qui pensent pas forcément comme moi, puis après je me rends compte que c'est pas facile. Et les gens qui m'ont dit t'as qu'à faire une émission l'hebdo Étienne, on parle pas du Proche-Orient. Comme le dit Yann, vas-y, tu fais une émission sur l'actualité et tu mets pas le plus gros sujet de la semaine. Non, c'est impossible, je peux pas. Il y a des gens qui m'ont dit c'est très simple Samuel, tu fais pas le Proche-Orient. Dans ce cas tu fermes l'émission, tu arrêtes l'émission, puis tu fermes ta chaîne. C'est un journaliste qui commence à dire « Je ne vais pas parler de ça parce que ça va fâcher les gens. » Vous savez qu'ici, c'est le présupposé, on parle de tout. Même quand ça fâche, même quand ça met en colère, même quand ça scinde, même quand ça crispe. Obligé. Donc, incontournable, comme le dit MGCTF, compliqué mais incontournable. Évidemment. Mais la honte, si j'avais décidé de faire une hebdo Étienne sans parler du Proche-Orient, mais jetez-moi des cailloux, enfin des petits cailloux quand même, faut pas déconner. Et puis unfollow, ne me suivez plus, quoi. Voilà, c'est pas possible. Hein. Et donc j'ai réfléchi à tout ça. Et donc j'ai un créateur de contenu qui m'a dit Sam, je suis désolé, je peux pas venir, c'est trop chaud, je prends trop de risques, quoi. Sur ce coup, ça m'a énervé parce que c'est du boulot de faire de la programmation. Et puis finalement, j'ai compris, mais c'est chaud quand même. Alors que nous, journalistes, c'est pas pareil. Bon, on fait ça depuis toujours, nous. Non, c'est facile. On fait ça depuis toujours, donc il y a une forme de compréhension de l'auditeur, du téléspectateur, du lecteur, du viewer qui dit bon, c'est un journaliste, il se penche sur l'actualité, bon, vous voyez. Alors que le créateur de contenu, il va s'en prendre plein la gueule, mais qui es-tu, toi le gamer, toi le, je sais pas, le fan de jeux de rôle, pour donner ton avis sur le Proche-Orient, toi, c'est le genre de truc, mais pourquoi. Puis alors s'il donne pas son avis, il va dire tu ne donnes pas ton avis sur le Proche-Orient, hein, pourtant tu es fan de sport automobile. Tu es influenceur. C'est bizarre quand même. Tu es lâche. Je l'ai lu le mot dans le chat. Non, en fait, ils vont. Quoi qu'ils fassent, ils vont fâcher, quoi. Hein, ils prennent pas position, c'est des lâches. Ils prennent position, mais qui es-tu, toi, pour donner ton avis, ou alors ils vont être pris à partie par les gens du camp d'en face qui ne sont pas d'accord avec eux, quoi. Ils ont tout à perdre, en fait. Vous voyez ? Donc, en fait, cette annulation qui m'a énervé d'abord. Puis après, je me suis dit, mais non, je comprends. Voilà. Et du coup, je lui ai pas encore annoncé d'ailleurs, mais mon autre invité qui est un youtubeur, je vais le libérer. Je vais lui envoyer un message. Hein, un invité qui m'a dit son inquiétude, qui m'a dit, tu sais, Sam, c'est chaud, hein, je prends un risque quand même. Voilà. Et il m'a dit, la personne m'a dit un truc super fort, il m'a dit, moi, parce que c'est un sujet qu'il connaît bien, il m'a dit, moi, le sujet du Proche-Orient, ça fait. Je me suis toujours dit que je n'en parlerai jamais en public. Et cette personne que je vais remercier là, que je vais annuler mais que je vais remercier, a fini par me dire mais c'est pas grave. on y va, je prends le risque. Estimant que ma maman, il fallait. Waouh, la classe, quoi. Je vais l'annuler. Parce que je pense que je peux pas prendre le risque de le mettre dans la sauce. Voilà. Voilà. Donc, j'avais 4 invités, j'en ai plus que 2. Demain, j'annonce un visuel. Avec deux invités qui étaient calés, une journaliste calée et puis une créatrice de contenu mais qui était journaliste avant, que vous connaissez bien, qui vient souvent sur la chaîne, donc nos soucis. Et du coup, ce que j'ai fait ce soir, donc c'est aussi ce qui, je vous en parle parce que c'est pour ça que j'ai lancé ce stream tard, en plus d'avoir lu Le Monde où il y a des trucs intéressants. Eh bien, j'ai pris mon petit téléphone et puis je me suis dit Sam, le truc le plus simple. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bah, c'est de caler 4 journalistes. Alors, on s'éloigne de la promesse de comment de mélanger sur ma chaîne, dans ma chaîne, les gens de tous horizons, les journalistes, les streamers, les youtubeurs, etc. On s'éloigne de ça, mais voilà, 4 journalistes, c'est fine, quoi. Voilà. On va prendre un peu moins cher, quoi. Voilà. Et, bonne nouvelle, j'ai mes 4 journalistes, voilà, ou apparentés, 2 garçons, 2 filles, voilà. Comme le dit Nexodis, ce sera moins fun, mais en même temps, l'actualité, elle est pas trop fun. Voilà où j'en suis, voilà pourquoi j'ai lancé tard. Je suis très content de cette solution. Toute la semaine, je me suis dit. Ah oui, il y avait une autre hypothèse aussi. C'était, comme je voyais que c'était compliqué de caler 4 invités, je me suis dit, allez, je fais pas l'hebdo Étienne. Tu vois, comme ça. Pff, à un moment, tu dis, j'étais en question pour un chambre toute la semaine, je bosse sur d'autres projets, j'ai Samplay à préparer, j'ai plein de jolis projets sur Twitch à venir dans les mois qui viennent. À un moment, je me suis dit, dis donc, ça va me saouler, quoi. Et donc, je me suis dit, oui, mais non. Mais non, tu peux pas. De la même manière que je me suis obligé de streamer tous les soirs cette semaine pour vous parler du Proche-Orient, parce que obligé en fait, c'est tellement énorme, c'est tellement important. Du coup, je me suis dit non, tu peux pas faire l'hebdo Étienne. Pas parce que tu loupes un rendez-vous, mais parce qu'en fait, journalistiquement, en fait, c'est ça se fait pas en fait. Parce qu'il y a une énorme actu polémique de dire ah là, c'est compliqué, je fais pas quoi. Voilà. Ah non, le sponsor, je m'en fous, c'est pas ça. France Télévisions, ils soutiennent, ils parrainent cette émission, mais un nombre déterminé d'émissions jusqu'en décembre. Et donc, en fait, je suis large, parce qu'en gros, début décembre, en fait, ça y est, j'aurais fait le nombre d'émissions que je veux, donc je peux sauter une semaine ou deux. Quoi. C'est pas le sujet. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu, j'ai assez parlé. Et puis après, on va faire une revue de presse, puisque je vous ai mis plein d'articles de côté pour parler du Proche-Orient, mais pas seulement. Portachar, merci beaucoup pour le gentil message et le 6e mois. Valentina, merci pour le 7e mois d'abonnement. Merci de ta fidélité. Frisouille, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Et c'est vrai qu'on a fait un très joli raid vers un streamer que je ne connaissais pas hier soir, le Bourlingueur, qui a accueilli ce raid hyper chaleureusement. C'était cool. La Diva Créole, merci pour le 26e mois. J'allais dire, oh, je connais ce pseudo. Bravo. Merci de ta fidélité, de ton soutien. Amorbisette, merci pour le 11e mois. Napoléon, avec un B, merci pour le 13e mois. Pauline, comment vas-tu? Merci pour le 25e mois. Niandra, Floriana, Petit Lucky, Pauline, Isaldor, Ayakouke, Camillette, Cam Cambou. C'est un numéro de téléphone ça? 669-591 Zals, merci beaucoup pour votre soutien. Oui Peter, on va parler également du projet de l'autoroute A69. Ouais, je cherchais un article clair sur le sujet. Je voulais trouver, vous savez que la personne qui faisait la grève de la soif là, a priori le chantier est suspendu, donc normalement la grève devrait s'arrêter, tant mieux, parce que je ne sais pas si c'était une personne, un garçon ou plusieurs, mais en tout cas qui mettait sa vie en danger. Et vive Zorglob, et je le redis, vive Zorglob, merci pour les 5 abonnements offerts à la commune. Merci beaucoup. Je vous lis un petit peu. Alors, merci Tabarly pour les simples, c'est adorable. Je me régale. Alors, je vous lis. L'autoroute A69, on va en parler, c'est cool. Charon le gros geek, pourquoi les replays sont devenus payants? Non, les replays sont pas devenus payants, il faut être abonné pour avoir accès aux replays sur Twitch, mais tu as tous les replays de mes émissions gratuitement sur YouTube. Voilà. Il n'y a pas que le Proche-Orient en ce moment. Oui, Nicole, je vous ai mis d'autres articles de côté, mais en même temps, quand on suit un peu l'actu de cette région, ce qui est mon cas parce que je suis un vieux truc depuis 30 ans, ce qui se passe aujourd'hui est éminemment important. Il est important d'en parler et d'en parler beaucoup, d'autant que ça peut avoir des conséquences bien au-delà de la région, des conséquences internationales, des conséquences sur la société française. Voilà. On va en parler. Salut Alexandra, merci d'être avec nous, j'espère que tu vas bien. Je vous lis un petit peu. Ah merci, il y a Kobe qui dit c'est canon d'avoir quatre journalistes puisque ça change et que l'actualité s'y prête. Oui, je pense que c'était quand même la bonne solution, quoi. Ouais. Bon, vous validez a priori le full journaliste de ce vendredi. Je pense que c'est plus simple pour eux quand même. Ouais. Comme le dit Diesel, à situation particulière, soirée particulière. Voilà. Je remonte un petit peu dans le chat parce que je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes qui se sont dites tout à l'heure avant que je vous parle de l'émission de vendredi. Merci Jicha pour le petit mot sur la matinale de France Info, c'est adorable. Voilà. Alors c'est drôle parce que j'avais arrêté la matinale de France Info parce que physiquement, je trouvais que voilà, 7 années de réveil à 2 heures du matin commençaient physiquement à me fatiguer un petit peu. Et je dors pas beaucoup plus en fait parce que du coup, le temps que je passais sur France Info, je l'ai mis sur Twitch, sur ce que je fais avec vous, sur mes streams, sur les prépas de stream et sur des projets que je suis en train de développer, des petits trucs sympas qui arrive et donc du coup je dors pas beaucoup plus mais je me marre bien quand même quoi. À ce propos, vendredi soir l'hebdo Étienne, donc je vous en ai parlé, on revient sur l'actualité de la semaine, pas seulement sur le Proche-Orient. Dimanche 20h, ça me plaît, je ne vous ai pas encore donné l'invité, je vous le dévoilerai très vite là, c'est prêt hein, c'est calé, multijeux les amis, multijeux dimanche, on va se régaler avec quelqu'un qui connaît bien l'univers du gaming. Et lundi, stream exceptionnel à 20h, la rencontre Étienne avec le président de l'ARCOM, hein, l'ARCOM, l'autorité de régulation de la radio, de la télé, voilà, qui a aussi son mot à dire sur les contenus sur Internet. Alors on parlera des droits aussi, on parlera du React, la pratique du React sur Twitch. Voilà. Donc le président de l'ARCOM, sur des problématiques qu'on évoque quasi quotidiennement sur cette chaîne, sera notre invité 20h et il répondra donc à vos questions. Voilà. Puis plein d'autres trucs qui arrivent bientôt. Je vous remercie pour le Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil, Tabarly, pour ton message. Le oh! Devinez qui était avec nous, je viens, et qui nous sub en plus. Le bourlingueur. On parlait de toi, je ne sais pas depuis combien de temps tu es là, parce que quelqu'un dans le chat me disait: merci Sam pour le raid d'hier soir, j'ai découvert un super streamer. Écoute, moi je ne suis pas resté toute la soirée après, parce que après je suis allé bosser hier soir et faire des trucs, mais je suis resté sur les premières minutes de ton accueil de raid, et je veux pas te flatter, il s'agit pas de te gêner, mais c'est un des plus beaux accueils de raid, et j'en fais un quasi quotidiennement depuis 3 ans, que j'ai vu chaleureux, drôle, sympa, voilà, c'était cool, et puis j'ai vu que les gens étaient très contents de te rejoindre, donc bah écoute, je suis content que tu sois avec nous, enfin, le sub c'est en trop, mais c'est adorable, merci pour le deuxième mois d'abonnement, donc ah, t'étais déjà abonné avant, oh c'est trop chou, voilà, voilà, moi j'ai découvert ta chaîne, du coup ça m'a donné envie d'aller voir, même si je manque un petit peu de temps pour voir ce que font les confrères. C'est dommage d'ailleurs parce que si j'avais du temps, je regarderais un peu plus les chaînes des autres. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil fait au raid hier soir, c'était vraiment adorable. Et manifestement, les gens étaient contents, pour ceux qui ne te connaissaient pas, puisque certains te connaissaient déjà, de te découvrir. Jolou, merci pour le Prime et Silax, merci également pour le Prime. Bon, on va faire un petit sommaire. On fait ça? Oui, alors je peux pas tout faire. Je comprends, il y a des gens qui me disent, comme Kyonshin et tout, ah oui, des historiens ou des géographes auraient pu être sympas pour avoir une autre vision de cette région et du conflit. Oui, bien sûr. Et puis les syndicalistes aussi. Et puis quelqu'un m'a dit, ah pourquoi t'as pas invité un imam et puis un rabbin? Et puis les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils ont aussi leur mot à dire sur la société dans laquelle on vit. Et puis des politiques aussi. Oui, bien sûr. Alors moi, le problème, c'est que j'ai 4 chaises. J'ai 4 chaises, et puis c'est ma chaîne, surtout. Et puis mon projet, moi, à la base, c'est faire de l'information, parler d'information sur tout. Twitch, et je suis un amoureux du journalisme et des journalistes, et vous le savez bien. Donc le projet, c'était plus ça, parce que c'est notre projet, comme disait l'autre. Le projet à la base, c'était plutôt vous parler d'infos et puis inviter des confrères, des journalistes pour parler d'actualité. Alors après, je me suis dit, tiens, et si on mélangeait un petit peu ces univers et inviter des créateurs de contenu? Mais je vais pas inviter la terre entière, c'est une petite pièce ici à côté là, hein, ça fait 20 mètres carrés, donc oui, je pourrais. Mais aux autres aussi de faire, hein. Aux autres aussi de faire d'autres émissions différentes. Bon, moi, mon kiff, il est là-dedans. J'ai pas envie d'inviter tous les spécialistes de la Terre. Vous avez ça à la télé déjà, ce sera pas très très nouveau, quoi. Hein? Enfin, c'est une très bonne idée, mais je peux pas tout faire. Voilà. Je fais assez de trucs comme ça. Je dors 3 heures par nuit, et c'est bon, quoi. Le mec pète un câble. Ben, on y va? C'est parti? Go? Well, yes. Non, je suis pas chafouin, mais en même temps, ça va, les Yaka Faucon. Je fais mon max, moi. Je peux pas inviter tout le monde, quoi. Hein. Pourquoi t'invites pas des. Tiens, je vais vous faire la liste, là. Et pourquoi t'invites pas des viewers aussi? Et pourquoi t'invites pas mon streamer préféré, là? Pourquoi t'invites plus des politiques? Pourquoi t'invites pas des syndicalistes? Pourquoi t'invites pas aussi, bon, quoi, des. Oui, des. Et pourquoi chaque semaine. Tu n'invites pas vraiment des vrais, vrais, vrais spécialistes sur tel sujet, quoi. Voilà, plutôt que des gens comme ça, des journalistes, qui ont un avis sur tout. Ah, mais pourquoi t'invites des streamers? Ils ont rien à dire. Mais pourquoi t'invites pas des streamers? Faut inviter des streamers aussi. Hein? Quoi? Hein? Pourquoi t'invites. Pourquoi t'invites ce facho de droite, là? Pourquoi t'invites ce gros gaucho, là? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Pff, sérieux, arrêtez. Oh, wow, 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 wow! Créez votre chaîne, les gars. Hein? Créez votre chaîne. Faites là votre émission, je peux pas tout faire, moi, je peux pas tout faire, j'ai qu'une vie. Hein. Miss Rachid, Thomas, je l'adore, c'est un pote. Bah, je pourrais l'inviter en vrai. Oh, merci la zone aéro pour le très gentil raid. Je sais qu'il faut qu'on se parle. Non, je m'énerve même pas, mais ça me fait rigoler que je ne peux pas tout faire. Et en plus, c'est pertinent. Bien sûr que tout ça, je voudrais le faire, mais j'ai pas assez de mains. Ce n'est pas une histoire de mains, c'est une histoire de cerveau surtout, quoi. Alors, on y va? Un petit sommaire? Allez, go, c'est parti. On va beaucoup parler de Proche-Orient, mais pas seulement. Ah, les invités, je ne vous ai pas dit. Je vous annonce ça demain dans un petit visuel suspense. Beaucoup de Proche-Orient, toutes les unes de vos journaux, ce matin, tout à l'heure, là. Quand je dis ce matin, j'ai bien conscience qu'il est 22h, hein, mais ce matin, quand j'ai lu les journaux, à 5h, c'était sur le Proche-Orient, et cet après-midi, Le Monde, c'était aussi sur le Proche-Orient. Donc on va beaucoup parler du Proche-Orient. Merci NDTSense pour le gentil message, mais pas seulement. La une du Parisien, des femmes et des enfants massacrés. Je sais que sur les réseaux sociaux, vous avez vu ces histoires de bébés dont les têtes auraient été coupés, les bébés qui auraient été décapités. On va en parler, fake news, pas fake news, preuve, pas preuve, on va en parler, les journaux en parlent. Le martyr des kibbutz, dit le Parisien, les soldats israéliens sont en train de découvrir l'horreur dans les kibbutz, dans les petits villages de Kfar Aza, de Be'eri également, des familles entières décimées par les terroristes du Hamas. Scène d'horreur dans les kibbutz, on lira l'article, on dira également l'éditorial de Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien. Indicible, indicible, indicible. Quand les mots manquent pour décrire ce qu'on découvre, quand les voilà, il n'y a plus de mots. Indicible, on lira ça. Le Parisien, libération otage du Hamas, c'est l'une des données de cette équation extrêmement complexe, hein, dilemme, voilà. Est-ce qu'il y a la moindre chance de récupérer ces otages vivants, ces hommes, ces femmes, ces grands-parents, ces enfants, parfois, qui ont été pris en otage par les hommes du Hamas, voilà. Est-ce que l'armée israélienne doit lancer une offensive terrestre, au-delà des bombardements, et prendre le risque de tuer ces otages? Israël suspendu au sort des otages, on en parlera avec Libération. Les otages israéliens au cœur de la guerre, c'est aussi la une du Figaro. Le Figaro, les journaux ne se penchent pas que sur les Israéliens, mais également sur les Palestiniens et les victimes palestiniennes des bombardements sur la bande de Gaza qui sont censés viser les responsables, les militants du Hamas. Il faut bien écouter Amoropi, c'est un stream où il faut bien écouter, il faut bien ouvrir les oreilles. Alors le Palestine vaincra, on s'en bat les couilles. C'est comme Israël a raison, c'est des slogans en fait. Si tu explicites pas, si tu échanges pas, si tu mets pas, si tu nourris pas, si tu explicites pas ta pensée, les slogans ça ne sert à rien. Ici on n'est pas ici pour lancer des slogans. Et quand tu dis vérifie tes sources, c'est une fake news les bébés. Je viens de dire, voilà, des bébés qui auraient été décapités, hein, dont on aurait coupé la tête. Ça s'appelle un conditionnel. Ça veut dire que dans ma phrase déjà, dans mes mots, il y a l'idée qu'il y a un débat sur la véracité de cette info. Et j'ai dit juste après, fake news ou pas, on en parlera. Les oreilles, les gars, les oreilles, c'est important. On continue. C'est dingue ça, bordel. Non, ignorer ce genre de message, non, parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer les gens en fait. À un moment, c'est un petit peu d'éducation en disant les gars, écoutez les mots, quoi. Sinon, c'est un dialogue de sourds. À un moment, j'ai dit t'as envie de dire aux gens, voilà. Engueulez-moi sur les trucs que je dis, mais pas sur les trucs que je dis pas. Bordel de merde. Donc, on va se pencher aussi sur le sort des Palestiniens. C'est le Figaro qui en parle notamment. La bande de Gaza prise sous un déluge de bombes. Alors, censée cibler les responsables du Hamas. Évidemment, beaucoup de civils, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants hein, qui sont touchés. On va parler du bilan également. Gaza sous le feu. Vous le voyez que vos journaux ne se penche pas. Certains pourraient imaginer que les journaux ont un angle pro-israélien en France pour X et X raisons. Moi, je trouve que vos journaux, depuis le début de cette crise, s'intéressent vraiment aux deux camps, voilà, et déplorent les victimes des deux côtés. Gaza sous le feu, ici c'est la Une de la Croix, vous le voyez par exemple. Gaza assiégé sous les frappes des Israéliens, vous voyez. L'humanité, le monde au pied du mur. Alors l'humanité nous apporte quelque chose ce matin que je trouve intéressant. Hein, sur la diplomatie internationale, en disant non, on ne peut pas se contenter de ce qui se passe actuellement. Il faut que la communauté internationale intervienne. Il faut que la communauté internationale, pour ramener la paix dans cette région, ce processus de paix israélo-palestinien totalement oublié depuis des années, tout le monde a lâché l'affaire en disant c'est bon, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas. L'humanité dit non, c'est de notre responsabilité, français, européen, américain, Nations Unies, en fait, d'intervenir pour mettre définitivement fin à la violence dans cette région. La communauté internationale, sommet d'agir, c'est l'humanité qui le dit le plus clairement. Voilà, je trouvais ça intéressant, je vous le lirai. Et puis, on reviendra très rapidement sur l'histoire d'Israël, sur l'histoire aussi de la Palestine. Voilà, 75 ans d'une histoire tourmentée pour Gaza. On l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois, d'essayer de comprendre les racines de cette crise, les racines du mal, la création de l'État d'Israël, les guerres israélo-arabes, le sort réservé aux Palestiniens, les erreurs de part et d'autre, les crimes de part et d'autre, les responsabilités de part et d'autre. Voilà. On va en parler. Je lirai aussi Le Monde qui est sorti cet après-midi sur le sujet. En Israël, l'ampleur des massacres de civils, voilà, avec des scènes incroyables. Ce qui nous permettra d'évoquer cette question des fameux bébés qui auraient conditionnel été décapités. Vrai, pas vrai, fake news ou pas. On verra les infos les plus fiables sur ce sujet. Le Monde l'évoque notamment. On se penchera sur la position américaine qui est un soutien absolu, total, sans faille à Israël. Pourquoi, comment, et le risque d'escalade. Est-ce qu'il y a d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir, d'autres fronts de guerre dans la région, notamment lancés par le Hezbollah qui fait peser un risque d'escalade, nous explique Le Monde. Ça m'a semblé un article intéressant. Et puis, alors, ça ne me semble pas l'essentiel, mais c'est vrai que ce conflit, cette crise a des conséquences en France, notamment politiques. Bon, vous avez vu les bisbilles, les grands discours des uns et des autres, notamment sur certains élus LFI, la France Insoumise, qui refusent d'utiliser le mot terroriste à propos du Hamas. Bon, bah, c'est quand la politique politicienne en France s'empare des grands sujets, dont on en parlera avec une interview de... Merde, j'ai oublié son prénom. François ? Putain, c'est la fatigue. François Ruffin ? J'ai un doute, je ne connais que lui, mais... Ruffin, François. Oh, François Ruffin, qui lui se désolidarise un petit peu de ce discours de certains élus LFI qui ne veulent pas parler de terrorisme à propos du Hamas et qui dit « Notre parole n'est pas à la hauteur ». Et vous savez quoi ? Alors, j'en lis pourtant des interviews de politique. J'ai été touché par cette interview de Ruffin, voilà, sur son regard sur cette crise, sur l'analyse qu'il fait de cette crise, sur les solutions éventuelles à cette crise. J'ai été assez bluffé. Je vous lirai cette interview, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc ça, c'est pour le Proche-Orient. Donc beaucoup d'articles, mais ça me semble essentiel sur le sujet. Et puis, j'ai quelques autres actualités aussi importantes. En France, l'histoire du projet d'autoroute A69 avec ces activistes du climat qui étaient engagés, je dis au pluriel, je crois qu'il y en a qu'un qui était en grève de la soif. C'est Thomas Breil qui était en grève de la soif au péril, non pas de sa santé, mais au péril de sa vie. Et d'après, donc ça c'est le journal L'Opinion de ce matin, eh bien, le gouvernement a décidé la suspension provisoire des travaux de l'autoroute A69 afin justement de ne pas mettre en péril la santé de ce ou de ces militants, je ne sais pas si c'est singulier ou pluriel, qui étaient en grève de la soif et dont on craignait beaucoup pour leur santé. Voilà, donc je vous lirai un article sur le sujet. Vous reconnaissez Hugo Décrypte. Je découvre un papier dans le Figaro ce matin sur France Télévisions, bon, qui est le groupe pour lequel je travaille dans le cadre de Questions pour un champion, à la recherche d'une jeunesse, de la jeunesse perdue plutôt. France Télévisions, c'est la direction du groupe qui vient de l'annoncer, va tripler ses investissements en direction plutôt des jeunes pour essayer de les intéresser, les toucher. Alors, soit sur la télé classique, voilà, et Hugo Décrypte va arriver sur France 2, soit sur les nouveaux écrans, les nouveaux canaux. Voilà, donc on se penchera sur cet article pour voir un petit peu les moyens qui sont mis et puis un petit peu quelle est l'ambition. Donc il y a ces deux articles-là. Et puis dans Le Monde, je vous ai aussi trouvé un article sur la réforme du RSA. Donc ça, c'est essentiel. Vous savez qu'en débat à l'Assemblée, il y avait la réforme du RSA. Ça vient d'être voté. Voilà. La réforme du RSA avec une alliance entre le camp Macron et la droite avec LR, avec un durcissement des conditions d'accès au RSA, notamment avec 15 heures de, comment ça s'appelle, on va pas dire, 15 heures d'activité, je crois. Voilà, une quinzaine d'heures d'activité minimum par semaine pour toucher le RSA. Alors c'est une réforme qui est très critiquée, notamment à gauche, et qui est soutenu par le camp Macron et par la droite. On verra pourquoi, on verra les arguments des uns des autres, et vous ferez votre opinion sur cette réforme du RSA. L'objectif, c'est affiché, c'est le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage très faible en France de l'ordre de 5%. Voilà, donc c'est ce qu'expliquent les partisans de cette réforme, et d'autres disent, ben non, c'est une espèce de travail obligatoire, travail forcé, travail gratuit, c'est ce que je lis dans le chat. C'est un débat extrêmement intéressant. Je vais trouver un article là-dessus, voilà. Et puis je vais trouver un autre article sur l'inquiétude du monde de la musique, des chanteurs vis-à-vis de l'IA, de l'intelligence artificielle. Bon, que je trouve que c'est un truc passionnant, mais au vu de l'actualité, même si c'est important, je me voyais pas en fin de stream vous mettre plein d'extraits de morceaux récemment faits par des IA en mode un peu léger, en mode oup, 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 oup. C'est un peu la fête vu l'actu, donc je me le mets de côté dans ma tête pour plus tard. Voilà, je remercie Caro Rowu à l'instant, j'espère que je prononce bien, pour ce 3e mois d'abonnement despotique. Merci pour le 26e mois d'abonnement. Voilà, beaucoup de réactions sur la réforme du RSA dans le chat, donc ok. Merci Alexandra pour les encouragements, c'est adorable. Bon, sur le RSA, je vois les différents avis, hein. Je trouve cette réforme vraiment cool, voilà, et d'autres au contraire qui sont totalement opposés à cette réforme. Je vous lirai ce qu'il en est. Ouais. Ok. Bon, bah c'est bien, on a fait un petit sommaire rapide, mais il y a pas mal de choses. Hein. Le Proche-Orient, on va essayer de comprendre, de mettre des infos pour être au plus près de ce qui se passe, d'essayer de, même si c'est extrêmement difficile, de, comment dire, d'essayer de voir quelles sont les responsabilités aujourd'hui dans l'actualité, dans cette crise historique aussi. Voilà. C'est un vaste, enfin une ambition très vaste pour un petit bonhomme comme moi, pas sûr d'être le mieux placé pour ça, mais bon, à mon humble niveau, j'essaie de le faire avec vous. Voilà. D'avancer ensemble, même si on n'a pas forcément les mêmes regard là-dessus. Loi, très bonne question. Loi votée, pas promulguée encore. Je ne sais pas si elle est déjà passée par le Sénat. Voilà, on verra, on se penchera sur le parcours législatif de cette loi. Mais elle vient seulement d'être votée, elle n'est pas encore promulguée. Mais à mon avis, ça va être promulgué, ça. Ouais. C'est-à-dire que ça va être promulgué, ça va être mis en application. Quoi. Voilà. On y va. J'ai un petit café, c'est mon deuxième café depuis 20 heures. Là, je suis bien, on est bien, on est bien. J'ai mon petit café, j'ai des petits schtroumpfs, des bonbons schtroumpfs, on est bien. Ouais, et puis force au modo, parce que même si 99% des gens qui viennent sur cette chaîne sont habitués à la démarche et savent qu'ils sont là pour parler de façon chill, malgré leurs oppositions, leurs divergences d'opinion sur l'actualité, voilà, ça se passe très très bien. Vous avez toujours effectivement à la marge des gens qui ne connaissent pas cette chaîne et la philosophie de ce qu'on fait depuis 3 ans ici et qui sont un peu en, genre on est sur Twitter quoi. Moi j'aime les pommes. Comment ça ? Tu n'aimes pas les poires ? Voilà. Donc il y a des gens un peu comme ça. Et là du coup il y a les modos Broubrou06, Clamakin, Captain McBernick, Julo, MMGCTF et notre ami à nous Nightbot. Bien sûr. Ouais, 3 ans déjà. Ouais, je suis un vieux. On y go ? Alors c'est parti. On commence par le Proche-Orient. Et on commence par le Parisien. Des femmes et des enfants massacrés, le martyr des kibbutz, les soldats israéliens ont découvert et sont en train de découvrir l'horreur dans les petits villages de Kfar Aza, de Be'eri, des familles entières décimées par les terroristes du Hamas. Je vais lire l'édito d'abord de Nicolas Charbonneau. Le plus saisissant dans les témoignages des premiers journalistes qui ont eu accès au kibbutz de Kfar Aza au sud d'Israël, ce sont les silences et les hésitations. Les mots qui ne viennent pas. Les yeux qui cherchent sur quoi se fixer. L'air qui semble manquer comme si rien ici n'était respirable. Ce n'est même plus de l'émotion, c'est de la sidération. Car ce qu'ont découvert les témoins quelques minutes plus tôt est indescriptible, va bien au-delà de l'horreur, de l'imaginable. On n'est jamais prêt à supporter cela, c'est tout simplement suffocant, indicible. Pourtant, il faut bien raconter et dire les choses. Non, kibbutz, ça ne veut pas dire colonie. Quelqu'un disait, c'est quoi kibbutz ? Quelqu'un dit, c'est colonie. Mais non. Kibbutz, c'est un village coopératif où en fait tout est mis en commun. En fait, c'est un espèce d'idéal. Voilà. Les kibbutz dont on parle, ils ne sont absolument pas... Ah, quand vous dites quelque chose dans le chat, vérifiez quoi. Les kibbutz dont on parle, les villages coopératifs, là, notamment en matière agricole, mais parfois ça peut être autour d'une autre activité, ils sont pas en territoire palestinien, ils étaient côté Israël. Dites pas kibbutz égale colonie. Enfin, hé les gars, faites gaffe. Je reprends. Ce qu'ont découvert les témoins quelques minutes plus tôt est indescriptible, va au-delà de l'horreur de l'imaginable, on n'est jamais prêt à supporter cela. C'est tout simplement suffocant, c'est indicible. Indicible, c'est quand il n'y a plus les mots. Pourtant, il faut bien raconter. Et il faut bien dire les choses. Il faut témoigner de ce qui s'est passé le week-end dernier dans cette zone prise d'assaut par les terroristes du Hamas. Il faut dire le massacre des familles, des enfants, la mise à mort systématique, le feu, la sauvagerie, la barbarie. Il faut rencontre de cela presque et déjà pour la mémoire. Car les martyrs des kibbutz vont s'inscrire dans notre histoire contemporaine. Comme il y a quelques années, les massacres dans les Balkans, ou plus récemment à Boutcha en Ukraine, comme autrefois le village d'Oradour sur Glane, c'est très exactement de cela qu'il s'agit. Alors oui, témoignez pour ne pas oublier. Où sont les voix, écrit Nicolas Charbonneau, qui tonnent d'ordinaire pour s'offusquer, pour manifester, les artistes qui savent pourtant si vite signer des pétitions, où sont les messages pour dire nous sommes les enfants de Kfar Aza ? Ne nous trompons pas sur ce qui est en train de se jouer. Israël est une démocratie imparfaite, mais elle est une démocratie, écrit le Parisien. Quand le Hamas est une organisation terroriste qui n'a rien à envier aux méthodes de Daesh, comme on l'a découvert avec ses martyrs des kibbutz de Kfar Aza et Be'eri, quand l'humanité sombre dans l'inhumanité. Ça, c'est l'édito, c'est ce que pense ce journaliste. Voilà. Ce n'est que l'expression d'un sentiment. L'article maintenant, scène d'horreur dans les kibbutz, ce qui va nous amener à parler de cette information selon laquelle des bébés, comble de l'horreur, auraient été décapités. Conditionnel pour l'instant. Conditionnel. De nombreux habitants des villages israéliens près de la bande de Gaza, donc on est côté Israël pour ceux qui pensaient qu'on était en côté palestinien dans des colonies, ont été victimes d'exécutions sommaires perpétrées par les terroristes palestiniens du Hamas samedi. Les témoignages de survivants sont accablants. Plusieurs kibboutz, donc du sud d'Israël, situés le long de la frontière de la bande de Gaza, censés être des havres de paix, sont devenus des charniers. Samedi, lors de l'attaque du Hamas en Israël, les combattants du groupe terroriste en sont pris aux populations qui vivent dans ces villages collectivistes, les kibboutz dont je vous parlais. À mesure que l'armée israélienne reprend les territoires pris d'assaut par le Hamas, elle découvre avec effroi les scènes d'horreur qui se sont déroulées. Le bilan n'est pas encore définitif, on le verra avec Le Monde, le dernier bilan d'ailleurs, côté israélien comme palestinien. Mais des centaines de personnes ont été massacrées, des dizaines d'autres ont été prises en otage et emmenées de force dans la bande de Gaza. Le kibboutz de Kfar Asa, donc, un reporter sur place d'un média raconte « Il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur de ce que nous avons pu voir. Outre une dizaine de maisons brûlées avec ses habitants, le journaliste rapporte avoir vu des femmes et des enfants décapités. » C'est ce qu'a rapporté ce journaliste. Cette vidéo, elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Des faits non confirmés par les autorités israéliennes. On en parlera plus tard de ce point. Selon l'armée, des familles entières auraient été abattues dans leur lit. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, c'est un massacre, a soufflé un major général. À Béhéri maintenant, plus de 100 corps ont été découverts par les secours. Béhéri, où près de 70 combattants du Hamas ont débarqué peu avant 6h du matin, à moto, en voiture, sur des images de vidéosurveillance. On aperçoit des commandos se cacher dans la cabine du gardien du portail de sécurité. À l'arrivée d'une voiture, le portail s'ouvre. Les tortionnaires en profitent pour pénétrer dans le kibboutz après avoir abattu à bout portant les occupants du véhicule. Lourdement armés, les terroristes font ensuite minutieusement du porte-à-porte, ont parfois forcé l'entrée des habitations à l'aide d'une perceuse, fait exploser les portes des bunkers où s'étaient réfugiés les civils, des familles entières, avec enfants et nourrissons, ont été assassinés directement dans leur maison. Maison incendiée, civils non armés, froidement abattus, famille entière décimée, à chaque fois le modus operandi est identique. Là, on parle des attentats du Hamas. Bon, ça, ce sont des faits. Vos journaux parlent de ces crimes, de ces crimes atroces, parlent aussi des populations civiles palestiniennes de la bande de Gaza qui se prennent des bombes actuellement sur eux. On va en parler, bien sûr. Otages du Hamas, il y a la question des otages aussi. Vous savez que les militants, les combattants du Hamas ont pris de très nombreuses personnes en otage, des femmes, des hommes, des enfants. Et Alexandra Schwarzbord en parle dans son édito. Dilemme. C'est la question qui hante Israël. Y a-t-il la moindre chance de récupérer vivants les enfants, les femmes, les hommes pris en otage samedi par les hommes du Hamas et aussitôt conduits à Gaza? La menace lancée lundi soir par le Hamas de tuer un otage à chaque fois qu'un bombardement israélien toucherait des habitations civiles de l'enclave palestinienne n'a pas empêché pour l'instant Tsahal, l'armée israélienne, de continuer à pilonner Gaza. Pour l'heure, aucun signe de vie ou de mort des quelques 200 otages n'est venu de Gaza. Alors l'armée israélienne doit-elle lancer une offensive terrestre, ce qui est en train de se préparer, hein, afin de récupérer les captifs par la force? Enfin, l'opération terrestre, elle vise surtout à s'en prendre au Hamas. L'opération risque d'être très coûteuse en vie humaine vu l'entrelac de ruelles de souterrains qui caractérise Gaza, mais elle est possible et tout indique, c'est ce que je vous disais un instant, que le gouvernement israélien s'y prépare. Israël donc suspendu au sort de ses otages. C'est aussi la une du Figaro, les otages israéliens au cœur de cette guerre. Le Figaro qui se penche aussi sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, puisque ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe des deux côtés. Je vous lis un petit peu sur ce sujet difficile. Certains comme Béné trouvent que c'est trop dur, c'est ce que nous racontons, donc nous disent qu'ils vont devoir nous quitter. Béné, je comprends tout à fait. Franck, j'ai peur que Samuel s'y brûle des ailes ce soir. Oh, tu sais, moi, je fais ce métier depuis 30 ans. Ce sujet-là, je le traite depuis 30 ans. Je ne sais pas si je le traite mieux qu'un autre, mais je le traite depuis 30 ans. Et ce n'est pas parce qu'on est sur Twitch que je vais arrêter de le traiter. Je suis journaliste, je serai toujours journaliste. Et c'est plus fort que le fait de me dire, ah, mais tu ne devrais pas aller sur ce sujet parce que tu vas te prendre une sauce, ça va être compliqué. Je fais avec ma conviction de journaliste, avec mon honnêteté, peut-être avec ma subjectivité, peut-être je me trompe d'analyse quand je me risque à faire des analyses, peut-être sûrement même, voilà, je suis comme vous tous, rempli de filtres, de valeurs liées à ma naissance, à mon éducation, à mes lectures, à mes rencontres. Je ne suis qu'un regard sur l'actualité, un parmi plein d'autres regards. Voilà. J'y mets le maximum de rigueur et d'honnêteté, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas pétri, rempli de subjectivité. Voilà. Donc ce n'est qu'un regard parmi d'autres. Vous avez le droit de le contester, vous avez le droit de vous informer ailleurs. Je vous demande juste une chose, c'est de croire en ma rigueur et mon honnêteté, ce qui ne veut pas dire que tout ce que je dis est pertinent, bien sûr. Penchons-nous sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, pris sous un déluge de bombes, nous dit le Figaro. Je remercie Volker 440, Béné justement, pour le message tout à l'heure. Caro Rouge, je te remercie, merci pour les soutiens. La bande de Gaza prise sous un déluge de bombes, les bombardements israéliens auraient tué 830 Palestiniens, dont de nombreux civils et enfants. Je vous relis cette phrase juste. D'ailleurs, c'est un bilan qui est plus lourd encore, on le verra dans Le Monde, le bilan il est plus lourd encore. Les bombardements israéliens auraient tué 830 Palestiniens, dont de nombreux civils et enfants. Voilà. Le bilan s'est alourdi, je vais vous en parler tout à l'heure. 4 jours. Après l'attaque surprise du Hamas, l'armée israélienne multiplie ses bombardements sur la bande de Gaza où la situation humanitaire devient préoccupante. Des troupes israéliennes sont toujours en train de se masser autour du territoire palestinien. Je vous le disais, il y a une opération terrestre qui est en train de se préparer. Mais jusqu'à présent, l'opération Sabre de Fer se joue uniquement dans le ciel. Quelqu'un me dit « Israël ne fait que se défendre ». Vous verrez que certains, dont François Ruffin, l'élu LFI dont je vous parlais, disait « Personne ne nie à Israël le droit de se défendre ». Peut-être qu'on a le droit, en tant que citoyen du monde, qu'on a le droit de s'interroger sur le fait qu'Israël, dans son acte de défense, tue des innocents, des femmes et des enfants. Peut-être qu'on peut poser la question, non ? Je ne sais pas. Non, peut-être. Est-ce que le droit à se défendre autorise à tuer des civils, des femmes et des enfants ? On peut peut-être poser la question quand même. Hein ? Jusqu'à présent, l'opération Sabre de Fer se joue uniquement dans le ciel. Donc c'est l'opération israélienne, c'est que des bombardements pour l'instant. Parfois, l'armée israélienne utilise les réseaux sociaux pour prévenir de l'imminence d'une attaque, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que souvent, c'est au dernier moment, sauf que parfois, les gens n'entendent pas l'alerte. De toute façon, on n'arrive pas, soyons clairs, hein, parce que certains disent « oui, mais les Israéliens annoncent les bombardements ». On n'arrive pas à 830 morts. Et c'est plus en fait aujourd'hui, on n'arrive pas à 830 morts en prévenant efficacement les gens, hein ? Non. Donc effectivement, c'est sûrement le cas localement, mais c'est, l'efficacité de cette prévention, elle est en question, quoi. Parfois, l'armée israélienne utilise les réseaux sociaux pour prévenir de l'imminence d'une attaque. Dans certains cas, ce sont les habitants d'un quartier entier qui doivent évacuer, mais pour aller où ? Ainsi, lundi, en début d'après-midi, le porte-parole en arabe de l'armée israélienne a publié un message invitant tous les habitants de Ramal, qui est le centre-ville de Gaza, à s'en aller, zone très peuplée. Voilà. On s'est retrouvé des milliers dans la rue, explique un habitant de Gaza. Certains sont allés se réfugier à l'hôpital de Shiva, qui est le plus grand de la ville, d'autres près de leur famille. Ailleurs, à 4h de l'après-midi, les bombardements ont démarré et ils ont duré toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Le quartier de Ramal a été entièrement rasé. Pour les plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, on dit que c'est un des territoires au monde où la concentration humaine est la plus importante, la densité humaine est la plus importante. Le quotidien est de plus en plus difficile. L'armée israélienne impose en effet un blocus désormais total du territoire, alimentation en eau coupée, alimentation en électricité coupée. L'armée israélienne l'a encore affirmé mardi, dès lors qu'un site est utilisé par des soldats du Hamas, il devient une cible militaire. Dans l'immeuble où vivent des civils pacifiques peut très bien se trouver une cellule du Hamas, précise le porte-parole de l'armée israélienne. Bon, bah on tape quand même, vous avez compris. Le Gaza est l'un des lieux les plus densément peuplés du monde. Je vous lis l'édito de la Croix qui poursuit un petit peu cette réflexion qu'on vient de lancer ici. Puis après, je vous lis bien sûr. Cas Dumonti, merci pour le soutien. La vengeance et le droit. Après l'effroi et la sidération, Israël prépare une invasion de la bande de Gaza en riposte à l'attaque sans précédent menée depuis ce territoire par le Hamas. Le Hamas dont l'objectif affiché depuis toujours est de détruire l'État d'Israël. Mener la guerre à une organisation dont l'objectif annoncé, affiché, officiel est de vous détruire, qui peut le reprocher à Israël ? Une offensive terrestre devrait être lancée avec blindés et fantassins, bataille dangereuse qui pourrait durer des semaines, peut-être des mois, perspective qui terrorise bien sûr les habitants de la bande de Gaza, inquiète la communauté internationale. La population va être prise dans les feux d'une guerre qu'elle n'a pas voulu. Israël y prend-il garde ? Le pays a été victime le 7 octobre d'une attaque terroriste majeure et le droit international légitime sa volonté de se défendre. Mais il doit viser, écrit la Croix, son ennemi strictement et ne pas englober tout un peuple dans sa vengeance. Or, de précédentes actions dans la bande de Gaza dans le passé ont montré que son armée, l'armée israélienne, pouvait frapper de façon indiscriminée, infligeant de lourdes pertes aux civils. Ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va continuer à se passer. L'ONU, qui craint le pire, appelle déjà à ne pas imposer de punition collective. Qui peut s'opposer à cette idée ? Qui peut s'opposer à cette idée ? Qu'Israël a effectivement le droit de se défendre ? Qu'Israël a le droit de combattre une organisation terroriste qui a juré de détruire l'État d'Israël ? Mais qui peut s'opposer à l'idée que ce droit à se défendre ne peut pas passer par le bombardement massif de populations civiles ? Donc la Croix consacre un dossier à ce sujet. Voilà. Et justement explique que les Nations Unies ont rappelé mardi la règle de droit, l'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie, donc ça c'est le blocus, est interdite par le droit international humanitaire. C'est une déclaration du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire par exemple. On va dire l'humanité sur... la responsabilité de la communauté internationale sur le fait que toute solution diplomatique, tout espoir de solution diplomatique pour résoudre ce conflit du Proche-Orient semble avoir été abandonné depuis très très longtemps. Et ce qui implique, et je suis assez d'accord avec cette idée, que la communauté internationale, elle aussi, a une responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Voilà, on va en parler ensemble. Je vous lis un petit peu. Va dire ça aux colons israéliens qui bafouent les lois de l'ONU, Fauzito. Tu as raison. La colonisation des territoires palestiniens par des colons extrémistes israéliens est également condamnable, évidemment. Voilà. Comme les comportements extrémistes de ces deux camps. Voilà. Évidemment. Right-click écrit, c'est une idée qui peut sembler comme ça cohérente, et si la Palestine répond à ces bombardements pour se défendre, c'est ok ou non ? Alors, c'est officiellement, même si les civils sont durement touchés, c'est pas la Palestine qui est visée, c'est le Hamas, qui est un mouvement terroriste islamiste en fait. C'est pas la Palestine qui a juré la destruction de l'État d'Israël. Il n'y a pas d'offensive contre la Cisjordanie qui est gérée actuellement par l'autorité palestinienne. C'est une offensive contre le Hamas qui vient de tuer, on verra le dernier bilan, autour à l'heure actuelle de 1000 civils israéliens. Donc, voilà. Mais je comprends ta question. Je comprends ta question. Et je partage une partie de ce qu'elle recouvre. Je lis encore un ou deux messages. Bien sûr que c'est un sujet difficile, Guiz, mais on se doit et je me dois de l'aborder. Burnell, tu as tout à fait raison. Pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, il faut se pencher sur les racines de la crise, la création de l'État d'Israël, les guerres israélo-arabes, même la déclaration de Darfour, du colonisateur britannique, c'était quoi, en 1900? C'était avant la Première Guerre mondiale, 1916, je ne sais plus. Et Hugo Décrypte a fait une très bonne vidéo sur le sujet, une vidéo de... On l'a regardée ensemble il y a 2 jours, de 16 minutes 30, je crois, qui, effectivement, est très, très claire. Voilà. Donc, vous trouvez ça sur la chaîne d'Hugo. Nous, on l'a regardée en intégralité il y a 2 jours. Et en vrai, même si elle ne dit pas tout en 16 minutes, elle est vraiment super bien faite. C'est vrai. On continue ? L'humanité fait un dossier que je trouve très intéressant sur la responsabilité de la communauté internationale aujourd'hui et dans le passé. Le monde au pied du mur, la diplomatie doit agir pour stopper l'engrenage meurtrier à Gaza. J'ai l'impression que je ne l'ai lu que dans l'humanité, ça, alors que ça semblerait évident. Voilà. Non, je ne vais pas faire un parallèle avec la guerre en Ukraine parce que ce serait un peu hasardeux, mais elle est où la communauté internationale dans, réellement dans une volonté forte, affirmée de mettre fin à la violence au Proche-Orient? Il n'y a plus. La communauté internationale sommet d'agir. La diplomatie mondiale doit tout faire pour sortir les populations civiles de cet engrenage meurtrier. Ben oui. Plusieurs pays ont proposé de jouer les médiateurs dans la crise actuellement, ok. Arabie Saoudite, Turquie, Égypte, Qatar. L'édito de Cathy Dos Santos. L'horreur doit cesser. La diplomatie parviendra-t-elle à éteindre le feu qui menace d'embraser le Proche-Orient ? Depuis les effroyables tueries perpétrées par le Hamas, dont l'étendue et l'horreur nous parviennent chaque jour. C'est intéressant parce que l'Humanité, c'est un journal qui, historiquement, pour faire simple, est plutôt pro-palestinien. Hein ? L'Humanité, ok ? Et c'est un journal qui écrit aujourd'hui depuis les effroyables tueries perpétrées par le Hamas, dont l'étendue et l'horreur nous parviennent chaque jour. On peut être un journal dont la ligne éditoriale est plutôt pro-palestinienne et condamner extrêmement fermement ce qui vient de se passer. Depuis les effroyables tueries perpétrées par le Hamas, dont l'étendue et l'horreur nous parviennent chaque jour, jusqu'aux annonces d'une riposte impitoyable de l'armée israélienne, l'engrenage d'une guerre totale est enclenché. Mais les paroles ne suffisent plus. Le monde est au pied du mur. La mal nommée communauté internationale, mais surtout les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont cru, c'est très important ça, ont cru pouvoir reléguer au second plan le conflit. C'est ça qui s'est passé ces dernières années. Hein. Vous n'entendiez plus parler dans les médias, beaucoup moins qu'il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, du Proche-Orient, du processus de, le processus de paix au Proche-Orient. Plus personne n'en parlait. Hein. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a cru pouvoir reléguer au second plan le conflit en laissant pourrir dans le tiroir ses propres résolutions. La tragédie du 7 octobre qui a meurtri le peuple israélien, l'enfer de l'occupation et de la colonisation commande de prendre des mesures urgentes, durables. La France, qui a su par le passé porter une voix singulière dans la région, doit agir en ce sens. C'est ce que dit François Ruffin, on le lira tout à l'heure en interview. Bruxelles et Paris peuvent jouer un rôle déterminant. Ce que dit Dumas, c'est très juste. C'est-à-dire que, et c'est des choses qu'on a lues dans d'autres articles, moi quand j'étais jeune journaliste, quand j'avais 25 ans, quand j'ai commencé ce métier, le Proche-Orient, on en parlait tous les jours. C'était extrêmement violent. Et puis il y avait, malgré la violence qui opposait les deux camps, il y avait ce très joli mot qui était processus de paix au Proche-Orient, processus de paix israélo-palestinien. Alors, il y a Joe Biden qui est en train de parler en direct. On va parler de Joe Biden et de la position américaine. On ne va pas aller écouter Joe Biden en direct. Je préfère vous dire ce point-là qui est très intéressant. À une époque, on en parlait tous les jours du Proche-Orient. Et puis, je me suis rendu compte, il y a... Je ne sais pas, ça a commencé quand? J'ai 10 ans. Il y a 10 ans, à partir de... 10 ans, 15 ans, 7 ans, je ne sais pas. On a arrêté d'en parler. On a arrêté d'en parler, voilà. Et on a oublié de dire cette simple expression processus de paix israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'à un moment, personne n'y a plus cru, en fait. Voilà. Les extrémistes des deux côtés ont réussi finalement à tuer le processus de paix israélo-palestinien. Parce que ne pensez pas que les Palestiniens, c'est un tout homogène. Ne pensez pas que les Israéliens, c'est un tout homogène. Dans ces deux camps, on va l'appeler comme ça, il y a des modérés. Il y a des gens qui appellent à la paix. Il y a des gens qui rêvent de la paix. Il y a des Israéliens qui veulent s'entendre avec les Palestiniens, avec les voisins arabes, et l'inverse est vrai aussi, voilà. Et à un moment, ces gens ont failli y arriver, et puis il y a eu l'assassinat d'Itzhak Rabin, et puis il y a eu l'arrivée au pouvoir en Israël de gens comme Benjamin Netanyahou, et puis il y a eu du côté de l'autorité palestinienne, il y a eu beaucoup de, comment on dit quand on détourne de l'argent, il y a eu beaucoup de corruption et beaucoup de mauvaises décisions politiques, et puis il y a eu la prise de pouvoir politique du Hamas, le mouvement terroriste dans la bande de Gaza, et puis voilà. Et puis à un moment on a arrêté de parler et on a arrêté de rêver d'un processus de paix au Proche-Orient. Voilà où on en était il y a encore quelques jours, voilà. Et puis subitement on reparle du Proche-Orient, voilà, parce qu'il y a eu des centaines et peut-être des milliers de morts, voilà. Et l'humanité nous dit, elle était où la communauté internationale ces derniers jours, voilà. Et bien on n'en parlait plus, en fait. Pourtant il y avait des résolutions de l'ONU, mais on les appliquait pas. Et puis il y a eu un processus lancé ces dernières années, j'ai oublié son nom, mais donc, le processus de réconciliation des pays arabes avec Israël. Il y a de plus en plus de pays qui avaient signé des textes de réconciliation avec Israël. L'Arabie Saoudite était sur le point de le faire, et donc en gros les pays arabes, les accords d'Abraham, merci Ronnie Fleur de Paix, les accords d'Abraham, c'est quoi? C'est les pays arabes de la région en train de normaliser leurs relations avec Israël, ce qui est quand même... On parle de pays arabes qui ont été en guerre avec Israël, hein, les guerres israélo-arabes. Des pays arabes qui normalisaient leurs relations avec Israël, malgré la question palestinienne, toujours en suspens. Voilà. Donc avec ce conflit israélo-palestinien toujours en cours, toujours en suspens. Finito. C'est pas grave. On n'en parle plus. Voilà. Eh ben, on en reparle. J'ai d'autres articles là, mais je vais quand même aller voir Le Monde, qui nous parle notamment des derniers bilans, puisque Le Monde est sorti cet après-midi, contrairement aux premiers journaux que je vous ai lus qui sont sortis ce matin. Et puis, et Le Monde qui revient aussi sur, vous savez, cette information, fake news ou pas, de bébés israéliens qui auraient été décapités. En Israël, l'ampleur des massacres de civils, c'est la dernière édition du Monde, donc qui nous rappelle effectivement, que dans plusieurs kibbutz, on a défini kibbutz tout à l'heure, le Hamas a laissé derrière lui des scènes de carnage. Un nouveau bilan fait état de 1200 morts israéliens dans le pays. Dans le kibbutz, écrit l'envoyé spécial du Monde, dans la région, dans le kibbutz, l'odeur des cadavres et du brûlé se mêle à celui de l'herbe fraîche et des cyprès. La mort s'est invitée de la façon la plus violente dans cette petite communauté de maisons basses et de jardins propres pour se répandre dans les cours, dans les vergers, dans les terrasses, dans les chambres, dans les recoins les plus reculés. L'attaque du 7 octobre a appelé à devenir une date capitale dans l'histoire d'Israël et du judaïsme, puisque c'est le jour où le Hamas a pris le plus de vies. 1200 morts dénombrés selon un nouveau décompte, 1200 morts, soit plus que pendant toute la seconde intifada côté israélien entre 2000 et 2005. C'est le jour du pire massacre de juifs, écrit Le Monde, depuis la Shoah nazie. Au loin, l'air se déchire sous les explosions et les coups sourds qui résonnent en martèlement puissant. Frappe aérienne et obus tombent sur Gaza. Le Monde qui parle des victimes israéliennes et qui parle bien sûr aussi, comment pourrait-il en être autrement, également des victimes palestiniennes. Des obus qui tombent sur Gaza à moins de 2 km, des quartiers entiers de l'enclave pulvérisés, immeuble, par la riposte israélienne d'une sévérité inédite depuis le blocus de 2007. Quelques 900 habitants de Gaza, 900 Gazaouis, ont été tués jusqu'à présent. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, explique un habitant d'un kibbutz israélien, c'est un massacre. Mère, père, bébé, jeune famille, tous tués dans leur lit, leurs abris, leur salle à manger, leur terrasse. Des rumeurs de décapitation ont circulé. Aucun officiel israélien ne les a pour l'heure confirmés. Je m'arrête un instant c'est à peine évoqué dans les journaux, mais vous, vous l'avez sûrement vu beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque il y a des gens qui se sont déchirés sur cette question. Des gens, notamment des journalistes, ont posté sur les réseaux sociaux cette affirmation. Des bébés, à un moment le chiffre de 40 a circulé, puis c'est un chiffre qui a été infirmé. La personne qui a affirmé ça a dit non, finalement, c'est, 40, on ne sait pas, c'était plutôt 40 victimes dans tout le kibbutz. Bref, des bébés israéliens auraient été décapités, voilà. Auraient été retrouvés la tête coupée. Alors ces gens qui affirment cela citent tantôt des journalistes qui affirme avoir vu, hein, notamment, ou encore des responsables, enfin des soldats israéliens. Mais à ce jour, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus ces dernières heures pour avoir une info qui, la plus fiable dessus, à ce jour, aucune preuve formelle n'a été apporté sur ce sujet. Voilà. Est-ce que des bébés israéliens ont été décapités par des membres du Hamas ? Peut-être. Mais on ne sait pas. Voilà. Donc, sur une question aussi importante que celle-ci, aussi dramatique, je vous demande d'attendre que la lumière se fasse. Là, dans les prochains jours, on va savoir. Voilà. Que des sources fiables, que des sources officielles avec des preuves formelles affirment qu'effectivement ça a été le cas. Voilà. Pour l'instant, d'après les recherches que j'ai trouvées, certains affirment que ça s'est passé, d'autres affirment que c'est de la désinformation. Je vous propose, parce que parfois il faut prendre le temps, non pas de se mettre la tête de façon autruche et de dire que ça n'est pas important, c'est essentiel, parce que dans ce cas-là, ça rajouterait encore à l'inhumanité de l'auteur de ces crimes. Donc c'est une question essentielle, ça n'est pas une question anecdotique, mais je vous propose que, qu'on attende quelques heures, quelques jours, en fait, parce que en matière d'information, la course à la vitesse, la rapidité n'est jamais bonne conseillère. Dans l'histoire de notre métier, régulièrement, alors il y a Tom par exemple Kercourt que je connais bien qui dit si je ne me trompe pas de Tsahal a confirmé mais pas le nombre, Tsahal c'est l'armée israélienne, j'ai trouvé une vidéo où une porte-parole française, toute jeune femme de l'armée israélienne affirme que des bébés ont été décapités. Elle ne dit pas qu'elle l'a vu, elle dit que des soldats israéliens lui ont dit, voilà. Et dans le même temps vous avez aussi des sources officielles de l'armée israélienne qui ne confirme pas cette information. Voilà. Donc vous voyez des sources au sein de l'armée israélienne elle-même qui ne sont pas d'accord entre elles. Attendons quelques heures, quelques jours, voilà, pour vérifier cette information. Dans le passé, la course à la vitesse sur l'information, la course à l'émotion, l'insuffisante vérification de l'information a fait qu'on s'est collectivement trompé. Les journalistes et puis les citoyens qui ont donné de l'écho à ces informations. Je pourrais prendre plein d'exemples sur la guerre en Irak, par exemple, l'histoire des bébés qui auraient été retirés de leur couveuse et jetés à terre, par exemple. Donc c'était une histoire qui avait accéléré la mobilisation des États-Unis contre le régime de Saddam Hussein. Hein. Eh bien, bon, bah ça, on s'est aperçu que c'était une manipulation, que ça n'avait jamais existé. Voilà, un exemple. Voilà. Et à l'époque, vous aviez plein de médias extrêmement sérieux et de gens qui disaient, oui, des bébés ont été sortis de leur couveuse et jetés à terre et sont morts de froid par terre. Quoi. Bon, on s'est rendu compte que c'était une désinformation qui avait été organisée à très haut niveau. Voilà. Plus ancien, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, la chute du régime de Ceausescu, avec l'affaire du charnier de Timișoara, voilà. Moi je l'ai connu, j'étais journaliste à l'époque. Pendant plusieurs jours, les médias, des médias français, internationaux, ont affirmé qu'un charnier de victimes du régime de Ceausescu avait été retrouvé, voilà, avec des corps recousus, avec des choses atroces, voilà. Crimes, preuve des crimes le régime de Ceausescu, des crimes on en a été commis, mais preuve de l'atrocité du régime Ceausescu, voilà. Donc c'est une info qui a été relayée, et puis on s'est rendu compte au bout de quelques jours, de quelques semaines, que ça avait été une manipulation des services secrets de ce pays, qui à un moment avait senti le vent tourner et avait voulu accélérer la chute du régime. Vous tapez charnier de Timișoara, T-I-M-I-S-O-A-R-A, c'est un cas d'école, vous allez trouver toutes les infos là-dessus. Ça, c'est ce qui arrive quand on va trop vite, quand on ne vérifie pas les informations, quand on ne prend pas le temps, quelques heures, quelques jours de plus pour multiplier les sources. Voilà. Bon, sur cette question des bébés, je voulais juste vous passer ce message. On vient de me dire que tout à l'heure que Joe Biden, le président américain, a fait une déclaration. On va aller voir. Merci beaucoup, Champigny, c'est gentil. Merci, j'ai fait de mon mieux, je kiffe ton pseudo. Merci pour le 23e mois d'abonnement. Merci, Bozo My Bro. Merci pour le 8e mois d'abonnement. On va aller voir. Merci, arrange-moi si. Je lisais le petit message, j'avais l'impression que c'était arrange-moi si tu peux, mais pas du tout. Cette arnaque-moi si tu peux, qui nous fait un très joli raid, c'est adorable, merci à toi. Vous savez, arnaque-moi si tu peux, c'est cette streameuse spécialisée dans la lutte contre les arnaques, les brouteurs, qui fait un excellent travail pour dénoncer, mettre la lumière sur ces activités-là, et qui fait un super boulot. Arnaque-moi si tu peux. Voilà, allez voir cette chaîne, allez voir, merci pour le raid. Bon, nous, on est en train de parler du Proche-Orient tous les jours, c'est chaud, mais c'est sympa. Enfin, c'est sympa de réussir à essayer d'en parler ensemble. Je vous disais qu'à l'instant, on me signalait dans le chat, info chat, que Joe Biden, le président américain, venait de parler. Alors, justement, j'allais vous parler de la position des États-Unis dans ce conflit, mais on va aller voir s'il a fait de nouvelles déclarations qui seraient importantes, qui seraient essentielles, et qui changeraient ce que je m'apprêtais à vous dire. On va faire un petit crible. Donc ça, c'était il y a 17h, donc non. Hop. Il y a 10 minutes. J'ai pas grand-chose, j'ai un truc sur BFM, là, est-ce que c'est récent, ça? Ça charge. Ok.
Certains visages, et je l'ai vu en rentrant dans cette salle.
22h40, c'était à 22h40 sur BFM, donc effectivement.
Vous pouvez voir le chagrin.
Ça semble récent. L'ami Tom Kercourt, qui est journaliste, qui était avec nous dans le chat tout à l'heure, est journaliste à BFM d'ailleurs. Hop, Tom, c'est chez toi ça. Attends, je vais vous mettre ça bien. Bougez pas. Toc. Toc.
Voilà. Grain sur certains visages, et je l'ai vu en rentrant dans cette salle. Vos craintes, vos amis, votre famille en Israël. Vous avez peur que les enfants soient une cible dans les écoles, dans leur vie quotidienne.
Bon, le président Biden qui manifestement s'adresse ici, vous l'entendez, à l'opinion publique israélienne.
Et qu'il soit blessé par toutes ces atrocités, mais c'est quelque chose que l'on ne peut éviter. J'ai demandé à toute mon équipe, y compris notre procureur général, de travailler avec notre communauté juive ici pour que nous puissions assurer la sécurité de nos amis juifs en Amérique. Et nous allons également condamner l'antisémitisme partout où il y aura antisémitisme. Ces derniers jours, nous avons vu que la haine ne disparaît pas. ISIS a été vaincu. Et une fois vaincu, ils ne disparaissent pas pour autant, ils se cachent sous terre. Tout ce qu'il suffit, c'est un peu d'oxygène. C'est la raison pour laquelle nous...
Pardon, mais c'est pas très très bien traduit, je suis désolé.
Nous voulons offrir la sécurité à nos amis juifs dans les synagogues, dans les écoles juives. Et nous avons une stratégie nationale pour contrer cet antisémitisme. Et beaucoup de vous dans cette salle nous aident. C'est la chose la plus ambitieuse que nous voulons faire et que nous avons fait dans l'histoire, dans toute l'histoire des États-Unis, pour combattre l'antisémitisme. Mais nous devons tous jouer notre rôle. Et il faut refuser l'antisémitisme et ne pas déformer les faits. Il n'y a pas de place pour la haine aux États-Unis, ni de la haine contre les Juifs, ni contre les musulmans, ni contre personne.
Joe Biden qui manifestement dénonce l'antisémitisme, qui dit son soutien au peuple israélien. Bon, alors si c'est que ça, effectivement, il n'y a rien de nouveau par rapport à l'article que j'allais vous lire. Bon, c'est très difficile de traduire en direct. Là, j'ai trouvé que c'était un peu approximatif sur certains sujets. J'ai vu beaucoup de traducteurs traduire en direct des conférences de presse. Là, c'est de l'anglais. On a frôlé l'approximation à un ou deux moments. C'est pas très grave. De toute façon, sur le fond, ce qu'il a dit n'était pas très, très, pas très important. Ou alors, l'extrait qui a été mis en avant, là, n'était pas important. Beaucoup plus important, ce qu'il a déjà dit, Joe Biden, auparavant. Regardez l'article dans Le Monde ici. Joe Biden réaffirme une solidarité sans faille avec Israël. Le président américain qui a dénoncé mardi la soif du sang du Hamas, la soif de sang du Hamas, dressant un parallèle avec l'organisation État islamique. D'ailleurs, à un moment, Joe Biden a dit, c'est pour ça que je me suis permis cette petite remarque sur la traduction, Joe Biden a parlé de ISIS. Hop. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. C'est, comment on appelle ça, c'est ça, ISIS. ISIS en anglais. C'est ça, c'est Daesh. Hein. C'est ça, voilà. À un moment, Joe Biden a parlé d'ISIS. Voilà, et la traductrice n'a pas traduit. Voilà. Et ce qui est intéressant, justement, pourtant, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'en fait, il parlait de Daesh. Bon, et c'est pour ça que je me suis permis cette petite remarque sur la traduction, parce qu'elle n'a pas dit Daesh. Voilà. Or, le parallèle est intéressant, parce que Joe Biden compare, justement, le Hamas à Daesh, à l'État islamique. C'est pour ça, pardon, je me suis permis cette petite remarque, parce que je trouvais quand même dommage que la traductrice soit passée à côté de ça. Quoi. Cet article du Monde, d'ailleurs, le dit très bien. Ému et en colère, Joe Biden, donc avant cette intervention, là, qui était il y a quelques minutes, a déjà prononcé une allocution au ton dramatique. C'était mardi, en soutien d'Israël, 3 jours après l'attaque du Hamas. Il s'agissait de l'une des interventions les plus passionnées d'un président américain en faveur de l'État hébreu jamais prononcée. Au-delà de la mort d'au moins 14 Américains et du sort incertain d'une vingtaine d'autres sans doute enlevés par le groupe islamiste palestinien, Joe Biden a voulu exprimer une empathie totale avec la population israélienne, qu'on a réentendue à l'instant, là, et avertir une nouvelle fois les acteurs régionaux, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, tenter de profiter de la situation. « Nos cœurs sont peut-être brisés », a dit Biden, « mais notre détermination est claire, et pour l'heure, l'heure n'est pas à l'affichage de nuances vis-à-vis du soutien au gouvernement israélien. » Et ça, d'ailleurs, ça peut être l'objet d'un débat. Ruffin, par exemple, dit que la France ne devrait pas s'aligner sur le soutien, comment dire, sans nuance des États-Unis à Israël et dire qu'il y a peut-être des choses dans ce que fait Israël qui sont critiquables, qui sont condamnables. Vous verrez l'interview de Ruffin tout à l'heure. En plus du déploiement du porte-avions Gerald Ford, les États-Unis ont envoyé en Méditerranée le croiseur USS Normandie et plusieurs destroyers. Cette présence vise à collecter du renseignement et surtout à transmettre un message à l'Iran et au Hezbollah. On va beaucoup parler du Hezbollah. Si la milice chiite libanaise, donc le Hezbollah, envisageait d'entrer en action au nord contre Israël, donc d'ouvrir un nouveau front contre Israël, elle est forte, donc cette milice, d'un arsenal de 130 000 roquettes et missiles, eh bien, les États-Unis se réserveraient la possibilité d'intervenir militairement. Dans les prochains jours, j'espère que ce ne sera pas le cas, on va peut-être apprendre que le Hezbollah lance une offensive au nord contre Israël et que l'armée américaine va intervenir pour taper le Hezbollah. Quoi. Voilà. C'est ce que nous dit Le Monde. Dans son discours, Biden a adopté le parallèle entre les crimes du Hamas, sa soif de sang, et les pires massacres de l'organisation État islamique, Daesh, ISIS, qu'on a entendu à l'instant chez nos confrères de BFM. Biden a dit encore, le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité, à l'autodétermination. Son objectif déclaré est l'anéantissement de l'État d'Israël et l'élimination du peuple juif. Selon Biden, le Hamas ne se bat pas pour les Palestiniens, mais uniquement pour détruire l'État juif. Alors, sur la menace que ferait peser le Hezbollah sur Israël, il y a un article, pleine page, page 5 dans Le Monde. Le Hezbollah fait peser un risque d'escalade. Le mouvement chiite libanais menace d'ouvrir un nouveau front contre l'État hébreu si celui-ci poursuit sa politique de terre brûlée à Gaza. Il y a un avertissement qui a été lancé. Dans les scénarios redoutés par Israël figure effectivement une attaque coordonnée sur de multiples fronts. Cette prophétie que ses ennemis lui promettent sous le slogan de l'unité des fronts se matérialise chaque jour davantage depuis que le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclenché l'opération déluge d'Al-Aqsa depuis la bande de Gaza, donc le 7 octobre. Mardi, Israël a aussi été ciblé par des tirs sporadiques venus du sud Liban, où les factions palestiniennes opèrent avec l'aval du Hezbollah, ainsi que du sud de la Syrie, près du plateau du Golan occupé, où le mouvement chiite libanais et les gardiens de la révolution, là on est du côté Iran, sont soupçonnés d'envoyer des renforts. On soupçonne l'Iran d'avoir aidé à la préparation des attaques du Hamas du 7 octobre. Qu'Israël et les États-Unis le comprennent, si Israël poursuit sa politique de la terre brûlée à Gaza, il accélérera l'ouverture d'un front au Liban. C'est ce qu'a promis un des responsables du Hezbollah, qui a posé trois lignes rouges à Israël à ne pas dépasser si Israël ne veut pas voir le Hezbollah attaquer au nord. Trois lignes rouges. Si Israël envahit Gaza, donc avec des troupes au sol, si Israël coupe la tête du Hamas, c'est ce qui est en train d'essayer de faire l'État hébreu avec ses bombardements, si Israël anéantit la population, s'il y a un nouvel exode forcé de Palestiniens hors de leur terre, si, troisième solution, des sites religieux sacrés en Palestine sont touchés. Trois lignes rouges. Une seule de ces lignes rouges franchies et le Hezbollah attaque au nord d'Israël. Le Monde nous explique que les Israéliens sont convaincus que le Hezbollah va de toute façon lancer une attaque dès le déclenchement d'une opération terrestre à Gaza. Ils sont préparés à cette éventualité. Des dizaines de milliers d'hommes parmi les 360 000 réservistes qui ont été mobilisés actuellement vont être déployés sur ce front. Ce scénario hante aussi Washington. Un premier porte-avions américain a été envoyé, on l'a dit tout à l'heure, près des côtes israéliennes comme élément de dissuasion. En cas d'échec, l'administration Biden pourrait demander au Congrès son feu vert pour une intervention. Perséphone écrit « C'est une poudrière », c'est exactement la définition d'une poudrière. Tidrao Xalis, merci pour le soutien. Rilvel, merci pour le 21e mois. Assaïd, merci pour le 2e mois d'abonnement. La France dans tout ça. La France, pourquoi le porte-avions? Parce que sur un porte-avions, tu mets des avions, Joe Castinger. Voilà. Tu mets des avions, tu mets des chasseurs qui peuvent aller taper avec des missiles des cibles. C'est la force des pays qui ont des porte-avions. La France aurait donc le pouvoir de déplacer un groupe aéronaval, pour être tout à fait précis. La France dans tout ça. La France aurait cherché, par des canaux plus ou moins officiels, à sonder les intentions du Hezbollah et à le mettre en garde. Lundi, lors d'une concertation, le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Rishi Sunak, le chancelier allemand Olaf Scholz, la présidente du conseil italien Giorgia Meloni ont insisté sur le fait qu'aucun autre acteur hostile à Israël ne doit chercher à tirer avantage de ce qui se passe actuellement, sans pointer explicitement le Hezbollah ou l'Iran. Il est vraisemblable, c'est ce qu'a dit le président Macron, qu'il y a eu des aides apportées au Hamas et des coopérations. Depuis sa création en 87, le Hamas bénéficie en effet du soutien financier et du savoir militaire de l'Iran et du Hezbollah. Voilà pour ce risque d'extension du conflit à la région. Je vous lis un petit peu, puis je vous lis l'interview, comme je vous le disais, de François Ruffin, voilà, qui s'oppose à l'expression ces derniers jours de certains élus et les filles qui ne voulaient pas, à propos du Hamas, prononcer le mot de terrorisme. Mais il dit d'autres choses très intéressantes. C'est presque les autres choses dans cette interview qui m'ont assez intéressé. J'avoue que j'ai trouvé assez pertinent, en fait, ce que dit Ruffin de cette crise. Vous allez voir. Frasia me dit qu'il y a une prise de parole demain soir de la part du président Macron. Ah, c'est vrai ? Sur quoi ? Sur la crise au Proche-Orient ? Ça, c'est intéressant. Une déclaration solennelle depuis l'Elysée ? Ouais, ça pourrait être ça. Ah oui. Alors, attends, je regarde. Info chat ou info vérifié ? Mercredi aux ongles. YouTube, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous l'avez, l'intervention du président Macron ? Allocution à 20h. Ah putain, vous êtes plus rapide que moi. Là-bas, je trouve même. Putain, j'ai tapé Macron intervention, c'est peut-être pas ce que j'aurais dû mettre. Macron 20h. Ok. Bravo. Merci. Ça, j'avais pas vu cette info. Article sur le site d'RTL.fr. Conflit donc Israël-Hamas. Que va dire Emmanuel Macron ce jeudi à 20h? Ah ouais, ok. Ça se regarde, ça. Effectivement, comme certains le disaient dans le chat, il va s'exprimer demain soir à 20h après avoir reçu dans la journée les chefs de parti qui sont représentés au Parlement. Il va faire un point sur la situation sur le terrain. Il va évoquer les victimes, notamment les victimes françaises. Il devrait évoquer, et on va le faire aussi ce soir, les risques d'importation du conflit en France. Qu'est-ce que ça veut dire, les risques d'importation du conflit en France? Ben je vais vous l'expliquer, j'ai un article là-dessus. Et le rôle que peut jouer l'État français dans ce conflit. Alors ça, ça m'intéresse, je voudrais bien voir ce qu'il va dire. En vrai, ça se regarde. En vrai, ça se regarde. Voilà. Je ne sais pas s'il va dire des choses intéressantes, mais en vrai, ça se regarde. Je vous le disais, où est-ce qu'il est cet article? Ah, attendez, je n'ai pas rêvé. Je vous ai mis un article sur le risque d'importation du conflit en France. Mais c'est peut-être Ruffin qui en parle. Oui, c'est Ruffin qui en parle. Lisons cette interview. Ruffin, notre parole, la parole de LFI, sur ce conflit, dans cette crise, n'est pas à la hauteur. C'est lui qui le dit. Le député LFI de la Somme appelle la gauche à mettre des mots forts sur les exactions du Hamas en Israël. Comprenez, des mots plus forts que ce qu'on a pu entendre dans la bouche de certains élus LFI. Pas tous. Il y a des divisions au sein de LFI là-dessus, quoi. Je condamne sans réserve les actes du Hamas, ce sont les mots de Ruffin. C'est une organisation fanatique, terroriste, les mots sont dits, qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient, des progressistes côté israélien, des progressistes côté palestinien. Hein. Hostile à tout compromis de paix, qui veut la fin de l'État d'Israël. C'est Ruffin qui le dit. Il faut aussi dire le terreau du Hamas. Oui, alors, dans un premier temps, Ruffin rappelle que le Hamas est une organisation terroriste évidemment condamnable. Et puis dit, il faut aussi dire le terreau du Hamas, le terrain sur lequel eh bien, le Hamas a pu prospérer. Avoir fait de Gaza, et ça c'est de la responsabilité des Israéliens, une prison, des Israéliens, pas forcément le peuple israélien, mais les autorités israéliennes, bien sûr. Avoir fait de Gaza une prison à ciel ouvert, sans espoir pour la jeunesse, a nourri le pire, et c'est vrai. On a bel et bien un face-à-face entre le fanatisme du Hamas et une politique israélienne imbécile, selon les mots de l'historien israélien Eli Barnavi, c'est un Israélien qui le dit, hein, une politique israélienne imbécile venant du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Sans un tiers qui s'interpose, hein, une machine infernale est lancée. Or, depuis 10 ans, et c'est ce que je vous disais de façon beaucoup moins précise tout à l'heure, depuis 10 ans, la communauté internationale est aux abonnés absents dans cette crise. Avec les accords d'Abraham en 2020, les Occidentaux ont voulu enjamber la question palestinienne. C'est un échec, les accords d'Abraham, quand a débuté la normalisation des relations entre les pays arabes de la région avec Israël, sans se soucier de la question palestinienne, comme si c'était terminé. Et ça n'est pas terminé, la preuve. Le soutien aux victimes et à la société israélienne, c'est l'évidence, je m'y associe, mais le soutien au gouvernement israélien ne doit pas être aveugle, dit Ruffin. Nous devons poser en permanence comme objectif le cessez-le-feu et la paix. Lundi, dans le communiqué des 5 pays, dont la France, il n'y a pas le mot paix. C'est le problème, dit Ruffin. Pourquoi cette absence de mot d'ordre, demande qui? C'est quel journal? Le Monde, à Ruffin. Pourquoi cette absence de mot d'ordre? Et Ruffin répond, parce qu'il y a un alignement de la France notamment sur les États-Unis. L'activisme d'Emmanuel Macron sur Twitter ne compense pas sa désertion du dossier depuis des années. La tradition gaullo-mitterrandienne, gaulliste, mitterrandienne, voulait que la France s'exprime avec indépendance, sans s'aligner, qu'on affirme qu'il n'y avait pas de solution militaire à ce conflit, que l'on appelle au respect du droit international, qu'on s'appuie sur l'ONU, qu'on soutienne la création d'un État palestinien conformément aux résolutions de l'ONU. C'était la position de la France jusqu'au début des années 2000, jusqu'à Jacques Chirac. Depuis, c'est le silence, c'est l'absence, c'est l'alignement, et pas seulement de la France, de tous les pays occidentaux. Je le dis gravement, dit encore Ruffin, ce n'est pas rendre service à la société israélienne, aux Français de confession juive, que de s'aligner sur les États-Unis, qui s'alignent les États-Unis eux-mêmes sur un gouvernement jusque boutiste en Israël. Le monde demande à Ruffin, quelle perspective en Israël ? Je ne suis pas prophète. Une fois passé le choc, la sidération, un débat va traverser la société israélienne. Est-ce qu'on continue sur le chemin des colonies, de l'humiliation des Palestiniens ? Est-ce qu'on cherche un autre chemin, celui du dialogue et de la paix ? Et en France, quid de l'importation de ce conflit chez nous en France ? Et Ruffin répond, le conflit au Proche-Orient n'est pas qu'une question de politique étrangère. C'est aussi une affaire intérieure de paix civile. De nombreux Français de confession juive, quand les Israéliens sont menacés, se sentent eux-mêmes menacés. Bon nombre de Français de confession musulmane, quand les Palestiniens sont bombardés, humiliés, se sentent eux-mêmes humiliés. D'où le rôle que nous avons à parler juste, à faire tout nos possibles pour la paix, aussi chez nous, car le risque d'importation du conflit existe. Moi, je voudrais relire ce passage-là sur l'importation éventuelle en France de ce conflit. Le conflit au Proche-Orient n'est pas qu'une question de politique étrangère, c'est aussi une affaire intérieure de paix civile. De nombreux Français de confession juive, quand les Israéliens sont menacés, se sentent eux-mêmes menacés. Et c'est normal. Bon nombre de Français de confession musulmane, quand les Palestiniens sont bombardés, humiliés, se sentent eux-mêmes humiliés. Et c'est normal. D'où le rôle que nous avons à parler juste, à faire tout notre possible pour la paix aussi chez nous, car le risque d'importation du conflit existe. Écoutez, je trouve ce discours juste, pertinent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que vous êtes nombreux à partager ce regard. Ok. Je crois que pour ce soir, après, je me recale. Oui, je voulais vous parler du RSA, c'est important. Pour ce soir, après un stream lundi soir quasi intégralement consacré au Proche-Orient pendant 2h30, après un stream mardi soir quasiment intégralement consacré au Proche-Orient pendant 2h30, après un stream ce soir, pour l'instant, au bout 1h30 intégralement consacré au Proche-Orient, eh bien pour l'instant, on fait une petite pause, on va passer au reste de l'actualité. Et on y reviendra demain, je pense que je vais streamer demain matin ou demain soir, mais demain c'est sûr. Et puis vendredi soir bien sûr, vendredi soir avec l'Hebdo Etienne, puisque je vous confirme que dans un contexte difficile, parce qu'il a été compliqué de trouver des invités qui voulaient évoquer publiquement la question du Proche-Orient, voilà. J'ai fini par changer un peu la ligne éditoriale de l'émission et de n'inviter que des journalistes dont c'est un petit peu le métier de commenter l'actualité, toute l'actualité. Donc il y aura une hebdo Étienne, voilà. Et je vous dirai, faut que je travaille sur le petit visuel et je vous l'annonce demain. Vous saurez aussi dans les prochaines heures demain l'invité de Simplay. Et sachez que lundi vous avez rendez-vous à 20h, je serai content que vous soyez avec moi puisqu'on reçoit à 20h lundi le président de l'ARCOM, hein, l'autorité de régulation de la télé, de la radio, et puis qui se penche aussi sur ce qui se passe sur internet. Voilà. Alors dans l'actualité, on va parler d'autre chose aussi quand même, parce que le monde ne s'arrête pas de tourner malgré le conflit au Proche-Orient. La réforme du RSA, voilà, qui divise beaucoup. Ouais. Certains trouvent ça formidable, notamment au sein de la majorité et à droite, et puis d'autres dénoncent cette réforme. C'est la position de la gauche. On va essayer de voir, de comprendre les arguments des autres, des uns et des autres, et puis de comprendre aussi en quoi consiste cette réforme. C'est dans Le Monde, dernière édition, page 12. C'est quoi cette réforme, Mac Tartampion, c'est parti. À l'Assemblée, le projet de loi plein emploi, parce que la réforme en fait du RSA est dans le cadre d'un projet de loi qui s'appelle plein emploi, qui vise le plein emploi, adopté grâce aux voix de la droite. Il y a eu un accord entre la droite, entre les députés LR et la majorité pour faire passer ce texte, puisque vous savez que la majorité justement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Durci à la demande des Républicains, ce texte prévoit l'inscription obligatoire des bénéficiaires du RSA au service public de l'emploi et une activité minimale de 15 heures par semaine. Ça, c'est totalement nouveau. Sinon, plus de RSA, Qu'est-ce qu'on entend par activité minimale de 15 heures par semaine? C'est ce qu'on va comprendre. Le Parti des Républicains, donc la droite, a permis l'adoption en première lecture à l'Assemblée du texte. Outre les trois groupes de la coalition présidentielle Renaissance, Modem, Horizon, seuls les députés de droite ont voté ce texte, présenté par l'exécutif comme une nouvelle étape vers le plein emploi en France. On va rappeler qu'économiquement, le plein emploi, c'est pas 0%, parce qu'il y a un taux de chômage incompressible, lié notamment aux démissions, aux rigidités dans le marché de l'emploi. Alors selon les économies, selon les pays, ce plein emploi, il varie, il peut être de 3%, de 4%. En France, on estime qu'il est à 5%. Donc une nouvelle étape vers le plein emploi, 5% de la population active au chômage contre 7,1% actuellement. C'est l'objectif de ce texte. Toutes les formations de la NUPES, le Rassemblement National, une grande partie également des élus du groupe LIOT, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, eux ont voté contre ce texte. Le projet de loi réorganise donc le service public de l'emploi, d'abord en créant France Travail qui va remplacer Pôle Emploi, et réforme, c'est ce qui nous intéresse, le revenu de solidarité active, le RSA, à travers un contrat d'engagement réciproque qui va contraindre désormais la plupart des bénéficiaires du RSA à effectuer une quinzaine d'heures d'activité par semaine, une mesure phare qui était d'ailleurs absente du premier texte. Et en fait, c'est sous la pression de la droite que cette durée minimum d'activité de 15 heures par semaine a été imposée. Sinon, la droite disait, nous, on vote pas le texte si vous mettez pas cette durée de 15 heures minimale. Alors que l'exécutif nous explique Le Monde, excluer un nombre d'heures minimal d'activité à effectuer, privilégiant un suivi personnalisé, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a finalement trouvé un terrain d'entente au Palais Bourbon avec le groupe LR, donc la droite de 62 élus, indispensable pour obtenir une majorité, sinon le texte n'était pas voté. Désormais, le projet prévoit donc le versement du RSA conditionné à au moins 15 heures d'activité par semaine, à l'exception des personnes rencontrant des difficultés en raison de leur état de santé, de leur handicap, ainsi que pour les parents isolés, sans solution de garde, avec un enfant de moins de 12 ans. Nous pensons, alors ça c'est M. Juvin qui l'a dit à la tribune de l'Assemblée, donc ce sont les partisans de ce texte, nous pensons qu'une partie de notre système social est dévoyée, il désincite au travail, au lieu de ramener vers le travail, et que tous ceux qui peuvent travailler, eh bien, doivent travailler. Donc ça, ce sont les partisans de cette réforme qui le disent. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 15 heures d'activité? Vous essayez de vous interroger dans le chat, vous plaisantez, est-ce que c'est du tricot? Est-ce que c'est... Je suis sûr qu'il y a eu 2-3 petites blagues là-dessus, voilà, j'en étais sûr. Cam, 15 heures de streaming sur Twitch par semaine, et vous êtes bon. Qu'est-ce que ça veut dire 15 heures d'activité? Si la nature exacte de ces activités n'a toujours pas été précisée par le gouvernement, c'est un petit peu ennuyeux quand même, le ministre du Travail avait déclaré à l'ouverture des débats qu'il s'agirait ni d'un travail gratuit, ni de bénévolat obligatoire. Mais bien, c'est la promesse du ministre du Travail, sauf que le problème, c'est que c'est pas écrit, donc c'est un peu flou quand même. Mais bien d'activités d'insertion, de formation, pour permettre le retour à l'emploi. À ne rien définir, vous laissez la porte ouverte aux abus, à une forme d'esclavage moderne, a dit l'opposition, et notamment le Rassemblement National, qui est opposé à ce texte. En contrepartie de ce durcissement des conditions de versement du RSA, Olivier Dussopt a défendu un système de sanctions rénové. En cas de manquement à ses obligations, le bénéficiaire ne subirait plus une radiation, mais une suspension du versement de l'allocation, 607 € pour une personne seule. Il pourrait récupérer les sommes perdues à hauteur de 3 mois au maximum s'il reprenait les activités imposées. Les députés de la NUPES à gauche ont dénoncé cette loi, je cite, scélérate, qui met le genou sur la nuque des plus précaires. C'est Sandrine Rousseau qui a eu ces mots. Ce qui nous est proposé, c'est un régime de coercition, d'infantilisation, de punition. Cette idée va à l'encontre de toute notre histoire sociale, déclare encore l'élu communiste Pierre Dharréville. Il y a du flou encore. On comprend la réforme, l'idée que, en gros, je me mets dans la tête des partisans de la réforme, voilà, il y aurait des abus, des gens au RSA qui du coup se contenteraient du RSA et ne rechercheraient pas une activité alors qu'ils seraient en mesure de le faire quand même. Donc du coup, en conditionnant l'obtention du RSA à 15 heures d'activité, qui les emmènerait vers l'emploi, vers la réinsertion. Du coup, on les inciterait un petit peu à revenir sur le marché du travail. Ça, ce sont les partisans du texte. Et puis les autres disent, vous foutez de qui, quoi ? Vous foutez de qui ? Est-ce que ces gens sont en capacité de trouver un emploi sur le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, dans des conditions décentes, à un salaire décent ? Voilà. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que, je ne l'ai plus en tête exactement, mais c'est qu'en France, vous avez beaucoup de gens qui ont droit au RSA et qui ne le demandent pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont, je ne sais plus quel chiffre, mais c'est très important, quelqu'un va le retrouver dans le chat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en France qui ont le droit au RSA et qui ne le demandent pas. Voilà. De l'ordre, voilà, c'est 30%. Exactement. C'est énorme. C'est énorme. Il y avait quelque chose qui devait être mis en place d'ailleurs pour que ce soit automatique, que les gens qui aient droit le touchent automatiquement sans en faire la demande, mais je ne suis pas sûr que ça ait été mis en place. Je crois que ça n'a pas été mis en place encore. Voilà. Écoutez, 15 heures, pourquoi pas, si c'est de la formation, si c'est de l'insertion pour permettre le retour à l'emploi. Le problème, c'est que ça n'est pas défini par le texte. Alors, c'est bien beau un discours du ministre du Travail à l'Assemblée, mais c'est un peu flou quand même. Alexandra, je n'oublie pas le jeune dont tu parles, qui est Hugo Décrypte, je vais en parler. Je vous lis sur la réforme du RSA. Alors oui, il y a des inquiétudes comme Monseigneur Algo, ça ne va pas du tout réinsérer, les employeurs vont profiter de ce coche pour faire tous les boulots caca que personne ne veut faire. Vous êtes plusieurs comme MLG7F ou encore Lost Memories à dire cet argent, l'argent du RSA ne suffit pas à avoir un revenu décent pour vivre sereinement. Hein. Lost Memories écrit, c'est vrai que tout le monde aimerait se contenter de 500 euros pour vivre. Quelques abus, ils veulent changer toute la loi, c'est n'importe quoi, dit encore Hamid. Beaucoup de questions sur cette réforme du RSA. Je vous lis. Hein. Hein. L'inquiétude de Boulène dans le chat qui estime que ça va précariser encore plus les conditions de travail et le salaire. Et si tu ne trouves pas les 15 heures, question. Alors d'après des éléments un peu rassurants, il est écrit que les gens qui d'ailleurs en charge de calculer les 15 heures, eh bien, pourraient prendre en compte les démarches en fait qui compteraient, voilà, quand tu écris les CV et tout ça, ouais. Dans les 15 heures, bon. Si je puis me permettre d'émettre une opinion, ça sent un peu l'usine à gaz, quoi. Qui va contrôler les 15 heures effectives d'activité ? Quels sont les moyens humains pour le faire ? Comment on vérifie ça ? Est-ce que c'est pas, comme dit le Club Med, juste un effet d'annonce électorale ? Je sais pas. Oncle Archibald cite Clément Viktorovitch qui en a parlé tout à l'heure, peut-être en stream. Clément avec qui j'échange en ce moment d'ailleurs, visiblement certains économistes pointent du doigt le fait que cette réforme va coûter très cher. Bon après, voilà, soyons optimistes, je viens d'être pessimiste, soyons optimistes, si cette réforme peut inciter et aider les gens à la réinsertion et à retrouver un travail, je dis bien si, pourquoi pas. Mais le diable se cache dans les détails et justement cette loi est quand même un peu floue. Alors là, on dirait que c'est fini, mais c'est pas fini. Je vais revenir en arrière parce que j'avais d'autres articles à vous lire en dehors de ça. Ouais, sur le conflit de l'autoroute A69, parce que vous êtes plusieurs ces derniers jours à me dire « SML, tu parles pas de cette opposition à la construction de ce tronçon d'autoroute A69 hein, en Occitanie ». En fait, j'attendais le bon article là-dessus, je l'ai trouvé. Puis on parlera de l'arrivée du Hugo Décrypte. sur France 2 avec France Télévisions, nous dit Le Figaro à la recherche de la jeunesse perdue. Raspoff, merci beaucoup pour le prêt. La 69, projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, me précise MMG7F, j'ai les meilleurs modos du monde. Je vous kiffe, merci beaucoup. Puis merci d'être avec moi vendredi soir sur l'hebdo Etienne qui risque d'être un petit peu agité, mais on a vu pire. Bonne nuit à Clamakine, puisque je parle des modos, qui va se coucher avec les enfants. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. L'autoroute, c'est parti. La détermination des activistes du climat se heurte à celle de la présidente PS socialiste de la région Occitanie, qui n'en démord pas, elle veut son projet d'autoroute. Moi, je ne le savais pas, ça. À 69, la contestation durcit et Delga, donc Madame Delga, droite dans ses bottes. Merci les modos, vous êtes super. Ce mardi, Clément Beaune, qui est le ministre des Transports, a fait le choix de suspendre provisoirement les travaux de la 69. Les travaux sont suspendus, décision du gouvernement, afin de quoi ? De ne pas mettre en péril la santé de l'activiste Thomas Braille, qui était en grève de la soif. C'est quelqu'un qui était en train de mettre sa vie en danger. La grève de la faim, ça peut durer un certain moment, le corps s'affaiblit progressivement, mais la grève de la soif, ne plus s'hydrater, ne plus boire, c'est la mort assurée à très court terme. Donc le gouvernement a décidé de suspendre les travaux pour ne pas mettre en danger la vie de ce militant. Au gouvernement comme à la région Occitanie, on assure vouloir aller au bout quand même de ce projet, hein, de l'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres. L'opposition à l'autoroute pourrait franchir un nouveau cap le 21 octobre, il y a une date qui vient là, lors d'une journée de mobilisation aux abords du chantier. Ça risque peut-être d'être un peu tendu. Papier d'Antoine Oberdorf dans le journal L'Opinion. C'est la guerre du bitume qui vient en Occitanie. Si vous ne connaissez pas le sujet, tout est relativement bien expliqué dans ce papier. Ce mardi, donc, Clément Beaune a jugé qu'il était temps de décréter une trêve avec les grévistes de la faim, dans un souci d'apaisement, sous la pression de l'activiste Thomas Braille, fer de lance de la contestation de l'A69 et d'une kyrielle d'élus écologistes. Le ministre des Transports a donc annoncé suspendre provisoirement les travaux de défrichement le long du tracé de 53 km qui devra relier à terme Toulouse à Castres. C'est pas très clair, mais je crois comprendre qu'il y avait une personne, Monsieur Braille, qui faisait la grève de la soif, et d'autres militants qui étaient en grève de la faim. C'est ce que je crois comprendre. Il s'agit de préserver l'intégrité physique de ces défenseurs acharnés de la nature, diminués par 40 jours de grève de la faim et plus de 24 heures sans hydratation. Ah, manifestement, d'autres militants donc avaient entamé aussi cette grève de la soif. Ok, je corrige. Le gouvernement l'assure, il n'a jamais été question que la 69 fasse partie des projets autoroutiers qui seront abandonnés. Que nous dit le gouvernement ? Qu'on suspend le chantier pour éviter un drame au niveau de la santé des militants qu'on vient de citer, mais il est hors de question d'abandonner ce projet. Les opposants au projet se réjouissent d'une première victoire, faisant mine de croire qu'un moratoire est encore possible. Merci beaucoup Perséphone pour ce très gentil soutien. La députée Europe Écologie Les Verts de Toulouse, Christine Arrigui, dénonce un projet qui est écocidaire, anachronique et inutile socialement. Le collectif a reçu par ailleurs le soutien de 1500 chercheurs qui exhortent le président de la République à abandonner les travaux. Il y a des personnalités du GIEC notamment dans ce collectif. Certains projets restent nécessaires, dit ce collectif de scientifiques, mais pas cette autoroute A69, ni l'intensité du trafic dans la région, ni le gain de temps envisagé sur le trajet Toulouse-Castres ne justifie la construction d'une autoroute, disent ces scientifiques. En vérité, une reculade de l'exécutif sur l'A69 paraît improbable, dit le journal. Les bulldozers sont toujours sur site, la chaussée sera construite coûte que coûte. C'est bien l'intention de la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga n'entend pas renoncer à cet axe autoroutier et le défend dans le journal L'Opinion. Que dit-elle ? Parce que L'Opinion donne la parole aux opposants, mais aussi à Madame Delga. Que dit-elle ? Elle dit « L'Occitanie, donc la région, a besoin de nouvelles infrastructures de transport. Il ne faut pas raconter de salade », dit-elle. Elle fait de la revitalisation permise par l'autoroute une arme de lutte contre les populisme d'extrême droite. Elle explique en Occitanie, avec la rentrée, les trains les moins chers de France, le recrutement de médecins, avec l'investissement dans nos lycées, les cœurs de village, nous avons fait reculer le RN, le Rassemblement National, de 10 points entre 2015 et 2021. Bon, faciliter la vie au quotidien des gens, selon Mme Delga, et notamment avec une autoroute, serait une façon de lutter contre le vote populiste, estime-t-elle. Je vois un de Kyonchin ou Kyonchin qui n'a pas l'air d'acheter l'argument. La priorité de Delga est de lutter contre le sentiment d'abandon, de déclassement. Alors ça, c'est un truc qu'on peut entendre effectivement dans les populations qui votent RN ou qui sont tentées par le vote RN. C'est vrai que c'est quelque chose qui est évoqué souvent, hein. Le sentiment d'abandon des pouvoirs publics avec les commerces qui ferment, la poste qui ferme, l'impression d'être abandonné par la collectivité. Sentiment d'abandon et de déclassement. Alors, est-ce qu'un projet d'autoroute permet de lutter contre ce sentiment d'abandon et de déclassement? Certains, comme Broubrou06, rient un peu. Autoroute contre le RN. Pas convaincu, quoi. Voilà. Je vais à la fin de l'article. Au vu de l'état de désespoir des activistes proches des associations de protection de l'environnement, il y a de quoi craindre sur le front de la 69 comme sur celui des méga-bassines un durcissement de l'opposition. Le week-end dernier, plus de 300 membres du Soulèvement de la Terre se sont réunis pour réfléchir à la suite des opérations. Vous savez, Soulèvement de la Terre, c'est notamment ce mouvement qui était engagé contre les méga-bassines. Et ils ont imaginé Ramdam sur le Macadam. Les 21 et 22 octobre, une manifestation d'envergure nationale. Des moyens logistiques vont être déployés. Des milliers de personnes sont attendues dans le sud-ouest avec la ferme intention de bloquer physiquement le chantier. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé autour des méga-bassines. Voilà. Bon, je suis content d'avoir trouvé cet article qui semble résumer bien quand même la polémique, le débat autour de ça. Je vais me chercher un petit peu d'eau. La bouche sèche, et je vais vous lire un dernier article sur comment France Télévisions essaye de séduire les jeunes qui ne regardent plus les médias traditionnels, à la fois sur les cadeaux traditionnels et avec de nouvelles initiatives. Vous me direz ce que vous en pensez. France Télévisions qui vient d'annoncer l'arrivée d'Hugo Décrypte sur l'antenne de France 2. C'est intéressant. Il y a Interfactor qui a un petit peu lu sur la question et qui dit « Les études montrent que ce genre de structure, comme cette autoroute, favorise toujours les mégalopoles comme Toulouse et favorise juste le côté dortoir des nouvelles zones accessibles. L'économie locale en profite assez peu et ça justifie le moins de services publics puisque tout devient accessible en mieux à Toulouse. » Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas que Delga était une députée socialiste, cependant, dit Delia Wood. Oui, anti-NUPES, si je ne dis pas de bêtises, Madame Delga, mais socialiste, oui. Oui, je sais, Tom. Tom écrit, c'est là que j'ai découvert Tom Kercourt qui est avec nous. Il fut un temps où c'est moi qui écrivais sur France Télévisions et les jeunes dans le Figaro, Sniff, ouais. Et c'était un très bon travail d'ailleurs, Tom. Tom qui maintenant, qui est avec nous ce soir, là, est à BFM, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Delga, elle est socialiste. Je me trompe, elle est écologiste. Quelqu'un me dit qu'elle est écologiste. Non, pour moi, Delga, c'est une élue socialiste. Attendez, je vérifie, parce que parfois je dis des conneries. Hein. Non, socialiste. Socialiste. Donc je dis des conneries, mais pas toujours. Pas tout le temps, quoi. Quels sont les invités de l'Hebdo Étienne vendredi? Ibra, suspense. Jusque tard ce soir, avant de lancer le stream, j'ai bossé là-dessus parce que c'était compliqué. Comme je l'expliquais en début de stream, je me suis rendu compte qu'il était quand même compliqué pour les créateurs de contenu, les streamers, les youtubeurs que j'aime inviter dans cette émission le vendredi en même temps que mes amis journalistes pour parler de l'actualité. Ben, je me suis rendu compte que c'était compliqué pour eux de se pencher sur le sujet, voire de prendre position sur la question du Proche-Orient. Voilà. Et donc, j'ai eu des annulations. Et pour ceux qui n'avaient pas annulé, à un moment, j'ai eu peur effectivement que cette soirée leur cause du tort, voilà. Et donc j'ai décidé d'organiser un stream 100% journaliste, 4 journalistes, vendredi soir à la maison pour parler de l'actualité et notamment du Proche-Orient, puisque je pense que c'est plus simple dans notre position. Voilà, je vous fais le petit visuel demain, quoi. Ça m'a demandé pas mal de boulot. Allez, on parle d'Hugo Décrypt ? Oui, let's go. France Télévisions, à la recherche de la jeunesse perdue. Le groupe va donc tripler ses investissements en faveur des jeunes. Le youtubeur Hugo Décrypt arrive sur France 2. Il ne dira peut-être rien aux téléspectateurs français, dont l'âge moyen a atteint 57 ans. En moyenne, la personne qui regarde la télé en France, en moyenne, elle a 57 ans. Mais sur YouTube, Hugo Travers, alias Hugo Décrypt, qui est venu dans l'hebdo Étienne une fois déjà, que j'ai vu il n'y a pas longtemps à Radio France quand j'ai animé un débat avec lui et avec, avec Zach et avec Domingo sur le sport sur Twitch. Hugo Travers donc est suivi par plus de 2,2 millions de followers sur YouTube, plus 2,9 millions, c'est énorme, d'abonnés sur Instagram, 5,3 millions sur TikTok. Âgé de 26 ans, putain, c'est dingue quand même, hein, 26 ans, le journaliste star des réseaux sociaux fera bientôt son apparition sur France 2. La chaîne accueillera prochainement l'interview Face Cachée, qui est un rendez-vous qu'il propose déjà sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises, format qui fait régulièrement le plein sur YouTube, c'est ça, Omar Sy, Bill Gates, mais aussi les candidats à la dernière présidentielle, plus récemment Emmanuel Macron. Il y a Kenshu qui dit que c'est pas 1, c'est pas 2 millions sur YouTube, c'est 1,11 million. T'es sûr? Il a pas de plusieurs chaînes genre secondaires. On va vérifier. Ouais, un journaliste, c'est le droit, ça peut se tromper. Hein. Tout. Alors, il est où mon Hugo? Hugo Décrypt. Pas confondre avec Hugo Délire. Bah non, 2,24 millions. Voilà. Vérifiez vos infos, les amis, dans le chat. C'était une info de chat, ça doit être vérifié comme toute info, quoi. Donc peut-être que tu es tombé sur une chaîne secondaire, hein. Voilà, mais il faut vraiment faire attention à vos infos. Tu vois, moi je pourrais être tenté de prendre cette info 100% vrai en disant ah, dans le chat vous avez bossé et tout. Voilà, il est à 2,24 millions, c'est écrit ici. Il a peut-être une chaîne secondaire en plus qui est à 1 million, mais sa chaîne principale est donc à 2,24 millions. Donc on continue. Donc c'est son format l'interview Face Cachée qui va arriver sur France 2. Sur France 2, l'affiche promet d'être belle. C'est l'astronaute Thomas Pesquet qui essuiera les plâtres face donc à Hugo Travers. Le jeune youtubeur ne fait pas ses débuts sur le petit écran. LCI l'avait déjà sollicité durant la campagne présidentielle de 2017 en tant que chroniqueur. En 2019, il avait aussi débattu face à Marine Le Pen dans l'émission politique sur France 2. Ça aussi, je l'avais oublié. Mais la nouvelle recrue a cette fois clairement valeur de symbole pour France Télévisions. Cet été, la présidente du groupe audiovisuel public avait en effet annoncé un grand plan d'investissement en faveur de la jeunesse. Et puis mardi, donc Stéphane Cidbon-Gomez, qui est le numéro 2 de France Télévisions, le directeur des programmes et des antennes, en a précisé les contours. Je vous rappelle que je travaille pour France Télévisions. Quand on parle d'un sujet et qu'on a un lien avec le sujet, il faut le dire en toute transparence. Donc vous savez que je suis salarié de France Télévisions. Voilà. J'essaie d'en parler en toute rigueur et indépendance, mais je me dois de vous le rappeler. Donc le numéro 2 de France Télévisions, mardi, a précisé les contours de ce grand plan d'investissement en faveur de la jeunesse. Reconquérir le public jeune sera l'ambition électorale phare de la télé publique cette saison et même les prochaines. Et vous allez voir que manifestement, il y a des moyens, de la thune, qui va être investi. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux nouveaux usages en empruntant d'autres canaux, mais bien de s'adapter à cette rupture éditoriale, dit M. Cidbon-Gomez. Il y a une attente de contenu différent, un besoin de conversation, d'horizontalité. Ouais, ça, c'est vrai. Hein, les médias verticaux, c'est un petit peu vécu. Une nécessité d'aller explorer de nouveaux univers, d'autres thèmes, on est d'accord, et ça passe par de nouveaux incarnants, dit-il. Comme par exemple, donc, vous l'avez compris, Hugo Décrypt. Ça implique surtout un traitement singulier, c'est-à-dire, en gros, ce n'est pas la télé qui va sur les nouveaux écrans, mais il s'agit d'inventer de nouvelles écritures, quel que soit le genre travaillé, fiction, donc faire différemment de la fiction, divertissement, faire différemment du divertissement, documentaire, info, vous avez compris le principe. Le bon modèle n'est pas de mettre des programmes pensés pour les réseaux sociaux sur nos antennes ou vice-versa. Bon, bah, au moins ça... Ça c'est clair. Tu vas faire quoi comme émission sur France Télévisions si tu es salarié, dit Mafalea. En fait, je présente un petit jeu moi actuellement sur France Télévisions qui s'appelle Question pour un champion. Voilà, c'est un truc le soir à 18h10 que je présente depuis 8 ans. Voilà, qui a un petit succès, qui est plutôt pas mal. Voilà. J'ai un copain streamer qui fait du react là-dessus, qui s'appelle Étoile. C'est un truc qui s'appelle La Nuit de la Culture. Voilà, c'est bien. C'est connu. Oh, pff, oh, un petit peu. 1 400 000 téléspectateurs chaque soir, en moyenne. Ça va. Tout va bien. Ouais, je flex. Le jeu se porte très très bien. Regardez Question pour un champion. Petite page pub. Voilà, ce stream est sponsorisé par Samuel Etienne. Pour Samuel Etienne, Question pour un champion. Bah bon, ça cartonne, mais les audiences, c'est pas tout. Ça pourrait cartonner et être nul. En fait, c'est top. C'est top parce que l'émission, on l'a voulu la rafraîchir, on l'a aérée. Voilà, elle est plus dans l'air du temps. Les questions sont beaucoup plus proches de l'époque contemporaine, beaucoup plus dans l'actualité que quand j'ai pris les rênes de cette émission il y a 8 ans. Elle s'est beaucoup détendue. Et pour dire les choses, on dit plein de conneries. Voilà, on rigole sec. Voilà. Et le ton que j'ai sur Twitch aujourd'hui, ben dans Question pour un champion, il n'est pas tellement éloigné en fait. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux qui me regardent sur les deux écrans, mais quand on regarde Question pour un champion aujourd'hui, le Samuel Etienne de Question pour un champion, il n'est pas très très éloigné du Samuel Etienne de Twitch. Voilà. Donc je suis assez fier de ça. Ça marche bien, le public est content de cette évolution. Et on dit beaucoup de bêtises et on rigole pas mal. Donc il y a la compétition, il y a le niveau très difficile des questions. Voilà. Mais il y a aussi l'idée de passer un bon moment ensemble et de dire plein de bêtises. Quoi. Voilà. C'est pas mal. Là, on a enregistré des. Il y avait un jeune barman. Hyper sympa dans les émissions qu'on a enregistrées aujourd'hui là. C'était ma dernière émission aujourd'hui là, demain la session se termine là. Et 20 quel âge il avait, tout jeune, et donc il est venu avec une chemise qui pique les yeux, une chemise qui vous arrache les globes oculaires, une chemise qui vous permet de régler votre télé. À moins que votre télé, littéralement explose quoi, sous les effets du truc. Une chemise comme, voilà. Assez étonnante. Et alors, c'est super, l'histoire est géniale. En fait, c'est un copain qui lui a envoyé par la poste exprès parce qu'il savait, qu'il allait passer la question pour un jour. Il a dit, faut que tu mettes cette chemise. Donc, c'est un espèce de pari. On a ri comme des baleines sur cette chemise du début à la fin. Voilà. On a bien rigolé. Voilà. Regardez Question pour un champion. En fait, c'est cool. Voilà. Fin de la page de pub. C'est fini, oui. Alors, je reprends la lecture de mon programme de France Télévisions qui devrait séduire les jeunes, espère la direction. La télévision publique commence déjà à bousculer ses habitudes par petites touches. Elle a lancé à la rentrée, là, un JT sur les réseaux sociaux pour les 12-18 ans. Ça s'appelle C'est quoi l'info ? Ainsi qu'une nouvelle série quotidienne, Déter, sur la vie d'un groupe de jeunes dans un lycée agricole. Et puis, elle prévoit d'adapter à la télé. Ça, c'est une nouvelle annonce aussi. L'émission de radio culte Planète Rap, hein, sur Skyrock, qui devrait arriver en télé sur France Télévisions. Les moyens financiers maintenant. La quête de l'Eldorado jeune va réclamer des moyens. France Télévisions promet un triplement de ses investissements dans les programmes. Aujourd'hui, l'enveloppe atteint 80 millions d'euros par an, 8% environ du total des dépenses dans les contenus. D'ici à 5 ans, le montant va être porté donc en direction des programmes pour les plus jeunes à 240 millions d'euros contre 80 aujourd'hui, soit 25% des dépenses dans les contenus. Près d'un quart de l'offre des programmes sera demain dédiée aux moins de 25 ans. Pourquoi un quart ? Parce que ça représente tout simplement un quart de la population française, explique-t-on du côté de France Télévisions. Quelqu'un me dit, il faut arrêter de striker les streamers France Télévisions, s'il vous plaît, me dit Gorion. Vous pourrez poser la question au président de l'ARCOM, qui sera notre invité lundi soir sur cette chaîne Twitch. Rendez-vous à 20h. Monsieur Sidbon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, parle d'une mutation énorme de l'offre du groupe. A priori, l'État actionnaire ne triplera pas nos moyens, donc cette ambition va impliquer des redéploiements, des transformations. Peut-être des désinvestissements du linéaire, au profit du non linéaire, l'arrêt de certains programmes. Comme l'État ne va pas donner plus de moyens à France Télévisions pour faire ses programmes en direction des jeunes, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien qu'on va enlever de l'argent ailleurs et qu'il y a des programmes qui vont être diminués, qui vont être supprimés pour pouvoir financer ces nouveaux programmes. Touchez pas à Question pour un champion. Juste, s'il vous plaît. touchez pas à question pour un champion. Ce jeu, il est trop bien. Pour tenter de regagner le cœur, c'est-à-dire l'attention des jeunes, France Télévisions compte emprunter deux chemins, chacun sa route, chacun son chemin, utiliser toute la puissance de ses chaînes linéaires généralistes, en même temps explorer tous les possibles offerts par le numérique. Donc il y a le chemin sur les anciens canaux France 2, France 3, etc. On fait du nouveau et on va aussi sur les supports numériques. Bonne nuit, pâte de fruits. Je crois beaucoup à l'alliance. Écoutez cette phrase, comment elle est importante. Stéphane Sidbon Gomez, numéro 2 de France Télévisions, déclare: je crois beaucoup à l'alliance avec des créateurs qui ont une communauté de valeurs avec France Télévisions. Le groupe public espère créer des ponts, réunir des publics. Ça veut dire que France Télévisions manifestement a l'intention de faire appel à des créateurs de contenu bien au-delà du GoDécrypt, voilà, pour, je sais pas moi, sur YouTube, sur Twitch, voilà, faire des collabs et faire des programmes, à mon avis, sur la chaîne Twitch de France Télévisions. Voilà. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les créateurs de contenu doivent y aller? Ont intérêt à y aller? Je sais pas. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Voilà. Enfin, j'ai un avis, mais il est très personnel. Mais j'ai un avis qui vous surprendra sur cette question d'ailleurs. Ah, je vous le dirai un jour. Bon bah les amis, c'est bon hein. C'est bon hein. C'est finito hein. 2h. Oh, c'est un petit stream, 2h10. Oh, ouais. Enfin, le soir, ça compte double. Hein. On est d'accord ? Je fais pas d'horoscope le soir. L'horoscope, c'est pour le matin. Et puis surtout, ben, moi, je compte streamer demain matin. Voilà. Merci, c'est gentil. Yahoo, Shrine, ou qui dit c'était bien le soir. Merci. Je suis content, en vrai, d'avoir streamé le soir, là, cette semaine et puis la semaine dernière. Moi, c'est l'intention. Hein, j'étais triste pendant toutes ces années de ne pas pouvoir... oui, on va faire une petite. Il y a Rotoloco qui me dit petite pub pour la Tunas. T'as raison de me rappeler. Je vais te lancer une petite pub Ring pour toi pour faire un peu de sous, hein, parce que faut ce qu'il faut quand même. Donc je t'envoie la petite pub pour la Tunas dans un instant. Reste avec moi surtout. Ouais, j'étais triste de pas pouvoir streamer quand je faisais question pour un champion. Et maintenant, eh ben, je stream en plus de ma journée de question pour un champion. Le matin, c'est pas possible, donc je le fais le soir, voilà. Donc demain on reprend le matin, puisque question pour un champion là, c'est stop pendant 3 semaines. Et puis donc demain matin on est en stream, vendredi matin on sera peut-être en stream, 20h demain soir j'irai peut-être voir ce que va dire le président Macron, qui sait. Voilà. Pff, folie de stream ici, on est atteint de la fièvre streameuse. Et puis on se retrouve vendredi soir pour l'hebdo Etienne, je vous annonce bientôt les invités. On se retrouve dimanche soir pour Samplay avec multi-jeux, multi-gaming et un invité mystère, pour l'instant je ne l'ai pas encore annoncé. Et lundi soir on se retrouve avec le président de l'ARCOM. Mais nom de Dieu, je suis devenu un vrai streamer. Donc là le réveil va sonner à 5h du mat pour les journaux, pour vous par là quoi. Merci beaucoup. Merci Fred at home pour les 5 abonnements offerts à la commune. Merci beaucoup. Merci Ali. Merci beaucoup pour le soutien aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est le bonheur. Je suis très heureux d'être là. Vendredi, c'est 20h, mon ami. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit raid. Voilà. Vous me proposez. Quand ça grince comme ça, c'est ma chaise. Hein. Hop. C'est pas mes os, pas encore. Vous me proposez là, maintenant, tout de suite, des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement, et on fait un petit raid. Voilà, on fait une pause musicale de 2 minutes pour choisir la destination à partir de vos propositions. Voilà, et j'envoie une petite page de pub à ceux qui sont pas abonnés, comme le disait quelqu'un dans le chat. Hein. Quand est-ce que tu envoies la pub pour faire un peu de moula ? Eh ben, c'est maintenant. Qu'est-ce que je vais vous mettre ? Musique douce ? Non, pas ça. Pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, ça, c'est joli, ça. 2 minutes. Faites-moi des propositions dans le chat. On se retrouve dans 2 minutes pour un raid. C'est important, le raid, d'aller soutenir les autres créateurs de contenu. Où est mon petit morceau ? Il est là. 2 minutes. À tout de suite. C'est parti pour la moula. On va où, alors ? On va être dans 15 secondes, j'ai trouvé la destination tout de suite dans de belles personnes. Merci Harry, merci Harry. Vive le Canada. Elle est belle cette chanson. On l'écoute encore 5 secondes pour le plaisir. Man of the World, Roof. La destination est choisie, c'est vous qui me l'avez proposé. Vous étiez plusieurs à me proposer cette streameuse que je ne connaissais pas. Ça a l'air très sympathique. On est sur du LOL, du League of Legends, mais on essaie de pas crier, dit cette streameuse, ASMR Serena. Ça a l'air tout chill, ça me semble bien pour un soir. ASMR Serena. Le raid est en train de charger. On se retrouve demain matin pour un stream, je pense. Voilà. Peut-être pas aussi tôt que d'habitude, je vais essayer de dormir un petit peu. En tout cas, ça va streamer demain, peut-être même un double stream. On est dans la dinguerie. Saluez cette streameuse de ma part. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour ces échanges sur l'actualité. C'est un kiff, c'est un grand bonheur. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Bonne soirée, bonne nuit. À demain. Je me permets de vous embrasser. On est des foufous. Ciao, ciao.